voulez, c'est déjà avancé. La nuit, la parole est libre. Un secret partagé est toujours plus facile à porter. 21h, 23h, Confidence. L'émission Sans Tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Et doublement merci d'écouter Beurre FM en ce mercredi 14 décembre de l'année 2022 à 20h. 21h, pardon.
21h.
Ça a commencé à 20h. Le match. Je pensais au match. Donc, vous nous écoutez. Ça veut dire que vous êtes vraiment de vrais fidèles. Je suis sûre que vous avez les yeux rivés sur votre écran télé, hein, à regarder le match, comme, tout comme nous, hein. Anthony a son écran. Moi, j'ai le mien. J'ai mon téléphone. J'ai mis le match en direct. Voilà. Et faites comme nous. Voilà. Et puis, venez nous tenir compagnie. Ne nous laissez pas seuls.
Alors, moi, j'ai 4 écrans. J'ai pas un seul. 4 écrans. C'est comme si je venais décoller une fusée. J'ai un écran pour le match, 2 écrans pour la pub, un écran pour le son. C'est important quand même.
Ah bah oui, il faut.
Une vraie fusée.
Ah bah voilà, une fusée. Bon, moi, moi aussi, j'en ai 4. J'ai un pour le standard, parce que je reçois les appels tout comme toi.
C'est vrai.
Et j'ai un pour les
diffusion.
Sons.
Ouais.
La diffusion des sons. De l'autre côté, eh bien, j'ai mes réseaux sociaux. Bah ouais. Et puis j'ai aussi mon petit écran, c'est mon téléphone qui m'envoie le match en direct. Et là, c'est la pub là. Hein,
là, c'est la mi-temps, 1-0 pour l'équipe de France sur un super but de Lucas Hernandez. Théo Hernandez, pardon, parce que c'est vrai que Lucas a déclaré.
Alors c'est Lucas.
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 Non mais c'est Théo, son frère qui.
Théo.
Qui
voilà.
Qui a pris le relais et un super arrêt de Hugo Lloris juste avant la mi-temps qui sort sur cette bicyclette acrobatique du joueur marocain. Quel arrêt sur sa ligne. Il le dévie sur le poteau. Et toujours 1-0 pour l'équipe de
France. On a dit pas commenter. Fais attention.
Je commente pas.
Ne rate pas les appels. Vas-y, prends les appels. Il remplace Bilal. Oui, chers amis. Et puis Mbappé. Le roi Mbappé. Pas mal, hein, franchement. Du côté marocain, je connais pas les noms des joueurs. Mais qu'est-ce qu'ils sont bons. Ah, ils sont bons les Marocains, enfin, il n'y a rien à dire. Vraiment, rien à dire. Ils sont bons, c'est des vrais lions, ils se donnent à fond. Donc, nous, on est là avec Anthony pour vous tenir compagnie, vous donner des résultats au fur et à mesure, et puis dire une chose, parce que nous, on est dans la neutralité, c'est normal. Notre cœur, eh bien, il est coupé en deux. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Si le Maroc gagne... Ah bah oui, il a son maillot hein, avec un coq. Cocorico. Ah, t'as le bas aussi. Ah ouais, il est bleu et blanc. Il est où le rouge?
Je suis pour le Maroc, voilà, 50-50.
Voilà, exactement. Nous, on est dans vraiment pour les deux. Nos cœurs. Là, ce soir, voyez-vous, c'est compliqué. Ça aurait été le Maroc contre je ne sais quelle équipe. Ah oui, c'est autre chose. Ou la France, pareil, c'est autre chose. Mais là, la France, voilà, France-Maroc, c'est très compliqué pour nous. Vous pouvez pas vous imaginer. Là, on est en train de faire vraiment des triples saltos, là. Hein. Ah ouais. Donc, on ne sait pas. Nos cœurs vibrent. Alors, quand il y en a un qui marque, oh, on est heureux. Quand l'autre marque, oh, c'est pareil. Donc, on ne sait plus. Vous voyez, on est devenu complètement... Ah ouais. On ne sait plus où donner de la tête. En tous les cas, que ce soit l'un ou l'autre, l'une ou l'autre des équipes qui gagnent ce soir, ce sera la fête. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ce sera la fête. Parce que c'est la famille. Ça, si la coupe est gagnée, enfin là c'est pas encore la coupe, ceci dit. Mais celui qui sortira gagnant ce soir de cette demi-finale, eh bien, il ira nous chercher la coupe et il nous la ramènera à la maison. Que ce soit le Maroc ou la France, pour nous c'est pareil, Anthony, c'est pareil.
Exactement. Et j'en profite juste s'il y a des gens qui vont sur les Champs-Élysées, surtout de manière pacifique, dans le calme, pas de débordement pour aider à mettre tout le monde dans le même sac. À chaque fois, on dit toujours la même personne. Surtout, allez-y de manière pacifique. Ou éviter d'y aller, fêter en famille, à la maison, avec des amis, c'est mieux comme ça.
Mais nos auditeurs, ils sont très calmes. Non, il y a certains qui s'infiltrent, mais c'est pas ce qu'on pense toujours. Hein. Qui provoque, qui fait quoi, on sait pas. On sait pas. En tout cas, ce soir, c'est la fête. Voilà. Quel que ce soit. Est-ce que je dis bien les choses? Quel que soit, je sais plus parler. Quel que soit le gagnant ce soir, eh bien, c'est la famille qui gagne. Voilà, Hadiya. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. On a Fatema, merci, Anthony. On a Fatema, nous tous les deux, on est venus. Hein. Vous marquerez, regardez, d'autres, ils sont restés à voir les matchs, ils sont partis voir les matchs. Je sais pas ce qu'il fait Bilal ce soir.
Il est malade.
Il est malade.
Il est malade. Il est très souffrant, très courbaturé.
Aïe. Remarque, voilà. Il avait une mauvaise mine hier.
Ouais. Donc, Bilal, on t'embrasse.
On t'embrasse et on te souhaite un bon rétablissement, Bilal, hein, et bon match. Voilà. Et nous, on est là pour vous, chers amis, jusqu'à 23h en ce jour particulier, solennel, mercredi 14 décembre, demi-finale de la Coupe d'Europe, de la Coupe du Monde. Du Monde, je sais plus, moi. Coupe du Monde, le Mondial, ce soir. Je sais plus. Voilà. Fatema Destin, bonsoir.
Bonsoir Vanessa.
Elle est morte de rire, tu peux rire. Hein,
parce que... Exactement.
Ah mais je suis pas faite pour.
J'adore.
Je suis pas faite pour commenter un match.
Non,
moi, je
non,
vous
non mais c'est bien au contraire. Non, il en faut plus des comme toi.
Des mêmes boulettes.
Oh, voilà, ouais. Exact, il y aurait une bonne ambiance.
Ah, t'es mignonne, ça me fait plaisir.
Voilà. Bon, je voulais pas que tu sois toute seule, donc je t'attends.
Oh, merci ma chérie, à Texaha.
Oh, j'ai entendu ton appel.
Bah oui, parce que je me suis dit, gars, tu sais, en venant là, déjà, il y a des personnes sur la route. Habituellement, quand je prends la route pour venir à la radio, il y a toujours de la circulation. Mais là, ça m'a rappelé un petit peu la période de confinement. Il y avait personne sur la route. J'étais presque seule.
Tranquille. T'arrives plus vite comme ça.
Mais après, j'ai réfléchi, je me suis dit, s'il n'y a personne sur la route, là, j'aurais personne à l'antenne. Parce que tout le monde est en train de regarder le match. Voilà, une sauna. Non, ne nous oubliez pas.
On est là.
Alhamdoulilah.
On est là.
Allez. Alors, Fatema, de quoi tu voudrais qu'on parle? On s'est dit beaucoup de choses hier et ces derniers jours.
Oui, non, mais c'est
hier, c'était quoi déjà?
Les intervenants actuellement, moi, j'adore. Je suis accrochée. C'est vrai, je te jure, j'adore les interventions notamment de Khalid, franchement, c'est quelqu'un de cultivé.
Absolument.
C'est très très agréable d'avoir des gens comme ça qui t'apportent des choses.
Oui.
Je trouve ça vraiment bien.
Honnêtement, oui. Mais je suis complètement.
Comme tu disais hier, on boit ses paroles, mais c'est vrai.
Absolument. C'est vrai. Génial. Des choses très intéressantes.
J'adore ce genre d'intervenants.
Absolument. Et on a eu Laïlis en premier.
Oui,
aussi.
Elle est très touchante.
Qui a été très touchante dans son témoignage.
Ouais. Elle a eu un parcours très difficile. Oui, 18 ans. Et effectivement, elle a eu la chance, et je trouve ça bien qu'elle ait mis ça en avant, de rencontrer les bonnes personnes. Parce que les foyers, malheureusement, c'est pas aussi positif qu'elle a eu la chance d'avoir.
Oui,
les foyers, malheureusement, sont.
Oui.
Moi, j'ai été touchée par un reportage une fois, justement, par ces foyers où on envoyait les enfants. Sont petits, on les mélange avec des grands, donc les petits subissaient des abus des grands.
Oh là là.
Donc oui, c'est
mon Dieu,
c'est affreux,
c'est terrible.
Et d'autres enfants qui se sont maltraités carrément par les éducateurs, ceux qui étaient là, qui étaient pour les entourer.
Et déjà en famille, ça a mal commencé avec le père qui était violent et qui se remarie et donc elle a connu un parcours vraiment très chargé pour ses 18 ans, de ses hauts, de ses 18 ans. Il y avait beaucoup de maturité en tous les cas dans son langage et dans son témoignage. C'est la vie, elle est marquée par la vie. Donc si tu veux, elle a grandi trop vite et souvent. Malheureusement, c'est pas toujours le cas, heureusement, mais malheureusement, quand on perd sa maman, c'est pour ça que il y a un proverbe algérien. Il y a un proverbe algérien qui dit, moi j'adore les proverbes algériens parce qu'ils disent toujours vrai, et qui dit, l'orphelin est orphelin de mère, de sa mère.
Maman, c'est vrai, ouais.
Je suis désolée pour les pères.
Non, c'est pas ça, parce que c'est pas le même amour, c'est-à-dire que.
La protection.
J'ai envie de dire que la densité de l'amour de la maman, c'est pas comme celui du papa. On le ressent pas pareil.
Et puis la mère, elle protège. Tu vois, regarde même chez les animaux. Regarde la poule. Ces petits poussins qui la suivent. Ils suivent pas le coq, ils suivent la poule. Les chatons, ils suivent la maman.
Les lions,
les chiens, les petits chiots, ils sont toujours avec leur maman. Les papas, ils sont absents. On sait même pas qui c'est, les papas, déjà. Ils sont absents. Donc, ça dit bien ce que ça veut, la nature.
On va pas blâmer tous les papas, parce qu'il y a des papas.
Non, je parle des animaux. Je parle des animaux. C'est pas les papas, les animaux.
Chez les humains, on sait, bien sûr. On peut pas le reprocher, parce que c'est la nature.
Oui. Mais chez les humains, il y a des bons papas, heureusement. Moi, je dis, les papas, ils sont très bons. Ouais. Tous les papas sont bons, bien sûr. Enfin, pas tous, mais beaucoup de papas. Mais en général, les papas sont bons quand la maman, elle est présente. Quand ils se remarient, pour certains, hein, je dis pas tous, mais hélas, oui, oui. Souvent, on nous le rappelle, quand la maman, elle vient à décéder, hélas, eh bien, quand ils se remarient, parce que le papa, il n'est pas à l'affût de tout, et puis les hommes sont faibles face aux femmes, mine de rien. Exactement. Donc, quand ils se remarient, quand il y a la belle-mère, il se marie avec une femme, bien sûr. Mm-hmm. Eh bien, il est, si tu veux, sous la coupe de cette femme. Exactement. Il est influencé, il devient influençable.
Oui, oui, oui.
Et il se passe des choses.
Coupe, hein, c'est vraiment le bon terme, c'est exactement ça.
C'est ça, il est influençable par sa femme. Donc, les enfants, ils font plus le poids second. Mm. C'est ça. Alors que quand la maman, le papa disparaît ou divorce ou je ne sais quoi, la maman, même si elle se remarie, mais la maman, elle protège ses enfants. Ouais. Et elle est capable de redivorcer pour ses enfants. C'est souvent le cas. Et là, c'est pas toujours le cas pour les papas. Je dis pas tout, je fais pas de généralité. Hein. Mais ça arrive. Évidemment. Souvent.
Que les gens n'appellent pas en disant qu'on fait des choses.
Ouais. Non, parce qu'il y a des hommes, ils sont un peu susceptibles.
Il y a des excès. Oui, je sais.
Mais en général, c'est comme ça, la nature. Nous, on les porte, les enfants, dans notre ventre. Donc, on coupe jamais le cordon.
C'est vrai.
Il y a des hommes, quand ils divorcent avec toute la famille. Ils oublient les enfants.
C'est pour ça que c'est pas le même lien. C'est pas le même lien entre le père et les enfants et la mère et les enfants. C'est pas le même lien.
C'est pas pareil.
J'ai envie de dire oui, comme tu dis, il y a quelque chose de plus fort du côté de la maman.
C'est ça. C'est ça.
Voilà.
Ouais, la mère, c'est très particulier.
Hier, je t'entendais aussi par rapport à. Je crois que c'est Karim, l'intervenant qui aime bien te taquiner.
Non, c'est pas qu'il aime bien me taquiner.
Il
aime bien
apporter.
Non, il
la
apporte.
Contradiction.
Alors, il apporte rien, moi je dis. S'il est à l'écoute, d'accord. Comme ça, il le saura. Tu sais, on peut parfois être dans la contradiction. C'est pas interdit.
Oui.
On peut ne pas être d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est parfois on peut être d'accord aussi. Mais ce qu'il y a, c'est que il faut pas tout le temps. Intervenir juste pour être en désaccord, juste pour contredire. Voilà, je suis dans la contradiction.
Lui, par rapport à
c'est trop.
Vanessa, lui, je me mets à sa place. Lui, il, dans son esprit, hein, et comment nous on l'entend. Enfin, c'est-à-dire il aime bien apporter la contradiction. Il aime bien, comme il a dit hier, il aime pas qu'on enjolive trop les choses.
Non, mais c'est pas tout le temps.
Avec quoi je suis pas d'accord avec lui? Enfin.
Ouais, mais c'est pas tout le temps.
On a tous une part d'ombre. C'est-à-dire que personne n'est tout blanc ou tout noir. On est bien d'accord.
Oui, mais c'est encore autre chose. Dire. Mais je parle des interventions. Par exemple, Khalid.
Oui.
Qui apporte beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ses interventions, mais je ne suis pas la seule. Je reçois des messages. Donc, Khalid est quelqu'un de très posé, de très apaisé. Il n'est pas forcément, même s'il est pas d'accord sur une chose, mais il le dit avec apaisement, avec sérénité, tu vois. Maintenant, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui apporte beaucoup. Et il y a beaucoup de culture, beaucoup de savoir. Enfin, je sais qu'il nous apporte beaucoup. Ouais. Maintenant, je veux dire, arriver à contredire Khalid juste pour la contradiction, juste pour le plaisir. Alors moi là j'ai dit il a fait fort quand même. Hein. Là il a fait fort là quand même, hein, parce que pour contredire Khalid, il a tellement de références, c'est juste pas possible quoi, tu comprends. Et une fois, c'est vrai qu'il y a eu des auditrices qui n'étaient pas contentes parce que si tu veux, il a eu un comportement ce soir qui j'étais obligée de le couper, hein. Il a eu un comportement n'était pas correct. Il y a une auditrice qui avait appelé.
Je sais pas s'il provoque.
Et là, il fait oui, mais enfin pas l'antenne, c'est gênant.
La curiosité, donc.
Oh oui, mais enfin bon, il y a un ego aussi.
Je sais pas.
Mais ce qu'il y a, c'est que cette auditrice qui a été, un petit peu, disons, secouée, il y a trois auditrices qui ont rappelé en disant qu'elles étaient mécontentes de son comportement. Ouais. Lui, il a rappelé. Moi, je passe en plus, je le passe à l'antenne.
Oui,
hein,
je passe.
J'ai passé. Mais de là à les traiter d'hystérique, là, il a été très, 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 très loin. Et là, j'ai reçu un tollé de messages en me disant tu as bien fait de couper parce qu'on était vraiment. Ah oui, oui, oui. Les beaucoup de femmes, il y avait des hommes aussi, qui ont trouvé vraiment que c'était déplacé.
En attaquant.
s'était déplacée. Non. Et puis on dit pas hystérique à une femme quand même.
Sa façon de défendre.
Bah écoute, qui se défend dans sa vie ou je sais quoi. Mais à l'antenne, on respecte les gens. Voilà, tout simplement. On vient pas juste pour attaquer. On n'est pas sur un match, sur un ring.
Ouais. Mais pour revenir à Khalid, c'est vrai que c'est très très intéressant ses interventions.
Ben oui.
Il donne envie d'aller chercher quand il donne des références comme ça. J'aime
c'est
bien.
Ça. C'est vrai. Ben on va l'avoir ce soir parce qu'il est en attente.
Ah ben d'accord, ok. Ben je te laisse alors.
Merci Fatima, on a la pause justement. Je t'embrasse
merci,
fort.
Merci, bisous.
Bisous, ma chérie, à bientôt. Soirée. Merci, merci. On a une petite pause. On revient juste après. À tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Confidence, on est là, oui, ce match, ce fameux match de la demi-finale France-Maroc. Mais nous, nous sommes là avec Anthony pour vous, chers amis, et j'espère que vous allez être nombreux ce soir à intervenir à l'antenne, hein, parce que alors là, vraiment, ce serait abusé de votre part, hein, ce serait pas sympa. Allez, on y va, 01 53 48 3000. Alors, je vois Anthony qui a les yeux rivés sur l'écran. Anthony.
Il y avait une grosse action pour l'équipe de France menée par Monsieur Mbappé et une série de frappe de Griezmann qui est signalée a priori hors jeu. Voilà.
Hors jeu.
Toujours à zéro pour voilà. L'équipe de France.
Je trouve que là, il y a beaucoup d'agressivité hein, sur le terrain. Hein. Ah, ils y vont les Lions. Hein. Là, ils y vont. Hein. Ça tape fort.
Ça sent l'écrou.
J'ai même vu Mbappé par terre à un moment donné. Là, c'est qui? C'est Griezmann, lui? Ouais, c'est Griezmann hein, qui est par terre. Ah ouais, il tape. Ah ouais, ils y vont. Regarde le croche-pied qu'il lui a fait. Oh, ah non, le joueur marocain, là, il a exagéré. J'ai vu. Hein. Il a fait un croche-pied, je vous jure. Comme à l'école, on se faisait des croche-pieds. À Griezmann, Mousquine, il est en train de boiter. Ah non. Aïe. Oh là là. Puis on voit sur les gradins, là, on avait une supportrice marocaine, la pauvre, elle est là. Elle est en train de prier presque. Elle est là. Et c'est vrai que c'est dur. Le stade, alors quand on regarde les tribunes, c'est rouge. Hein.
Plus de 55 000 spectateurs marocains présents dans le stade.
Oui, marocains. Et puis comme c'est un pays arabe, hein, donc ce qui fait que bah, ils sont soutenus par forcément il y a la culture, il y a tout ça quoi. Donc en fait, les Marocains sont plus soutenus que les Français, puisque les Français, on a l'impression qu'ils jouent
à l'extérieur,
quoi. Les Marocains, ils sont à domicile.
J'ai envie de souligner le très beau geste de Mbappé lors de l'entraînement, ou l'échauffement, où involontairement, il a voulu viser la lucarne et le ballon a tapé un supporter français. Qui est parti tout de suite, Mbappé est parti tout de suite s'excuser auprès de ce supporter-là et aussi le réconforter.
Ça, c'est l'éducation que je te dise. Bravo, maman et papa Mbappé. Bah, l'éducation.
Si ils nous écoutent, bah, on leur embrasse.
Ouais. Oh, bah là, ils risquent pas, là. Ils doivent être là-bas, à mon avis. On va prendre Raoul, qui nous appelle de Poitiers. Et on a Khalid aussi, qui nous attend, qui nous appelle. Et qui va nous parler certainement de Coluche. Je lui ai demandé qu'on parle de Coluche. Merci d'avoir appelé Khalid, parce que Coluche mérite une émission. Et les autres, venez, allez, 01 53 48 3000, on vous attend. Bonsoir Raoul, de Poitiers.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, bienvenue Raoul.
Oui, merci.
Tu regardes pas le match?
Non, on a l'impression que c'est un fait d'État, encore si c'était la Coupe.
Est-ce que tu as le haut-parleur d'allumer?
Non.
La radio? Non, rien?
Non plus.
Le truc dans les oreilles, là, le kit main libre? Non, rien?
J'ai le casque.
Ah oui, il faut pas le casque. Il faut le téléphone direct. Ça fait des interférences.
Ah d'accord, oui.
Ah ouais, non, le casque, tout ça, c'est des interférences parce que ça passe par des circuits, etc.
Avant si je mets pas le casque, j'entends pas, moi.
Si bah si, comment tu fais le téléphone?
Ben justement, je mets le comment dirais-je,
t'as un téléphone, tu mets le téléphone à l'oreille. Non?
Ouais, c'est ça. Ouais,
sans le casque.
Non, mais c'est pas un téléphone fixe.
Non, t'as un portable. Moi, mon portable, je le mets à l'oreille.
Oui, c'est ça, oui.
J'ai pas de casque.
Là, c'est bon, non?
Je sais pas ce qui vous arrive. Depuis qu'on vous a inventé des besoins, vous arrêtez pas d'acheter des choses. Et des casques, et des machins dans les oreilles. Bientôt, on va vous donner des trucs à mettre dans le nez.
Ne me dites pas ça que c'est un besoin, parce que celui qui a inventé ça, j'espère qu'il sera maudit, hein, parce que franchement, dans le sens, hein, pour dire, parce que avec toutes les gestes, les pollutions, les dégradations qui nous ont causé.
Ah bah ça c'est certain.
À pas mal de monde.
Ah bah dis donc, c'est toi qui dis ça et tu nous appelles avec un casque. Ah bah oui. Alors Raoul.
Franchement, c'est pas un truc de bien, oui, de bienfaisance pour l'humanité. Hein,
ouais. Alors Raoul, tu voulais parler de quoi déjà?
Oui, là, moi, je voulais revenir à ce que vous aviez dit hier et puis plusieurs reprises sur la personne là, qui est dans un état de santé dégradé de santé, là.
Ah oui, Asil.
Voilà. Après, vous évoquiez à plusieurs reprises qu'il n'avait pas de sel. Bah, c'est normal, s'il ne mange pas, il peut pas avoir de sel, là, voyons.
Non, c'est pas ça. Non, il mange, sinon il vivrait pas. Non, il mange. Bah, il mange très peu.
Pas,
alors, je t'explique.
Il ne s'alimente pas beaucoup.
Il mange, mais très peu.
Oui.
Voilà, il mange très peu. Moi, je connais beaucoup de gens qui mangent peu. Lui, il mange peu. Voilà. Il mange pas beaucoup. Peut-être par crainte aussi. Mais c'est pas une question de sel. T'as pas compris. Comment t'expliquer? Il peut pas faire des sels comme toi, comme tout le monde, par l'anus. Alors donc, il a une maladie qui est un peu spéciale. C'est peut-être génétique de naissance. Ouais, voilà.
Et il ce peut. Que je veux dire, ouais, c'est que même en nourrissant les patients à l'époque par l'alimentation par sonde gastrique parentérale, et dire c'est une alimentation qui est plus que liquide, parce qu'il y a tous les nutriments. Alors c'est pour des patients qui ont été suite à un AVC par exemple, ou une intervention neurochirurgicale, ou bref. Et ensuite, eh bien, même en se nourrissant par cette alimentation parentérale, hein, on appelait ça les gavages. Bon, c'est ni plus ni moins que des gavages, parce que le patient ne peut pas s'alimenter par normalement. Il n'a pas encore la conscience, hein, vous comprenez. Donc il faut. Bref. Eh bien, il y a quand même des sels, mais les sels sont liquides.
Oui, mais il a des sels, mais il va pas comme tout le monde. C'est-à-dire que toi, quand tu c'est naturel, hein, on peut toi, moi, tout le monde. Qui sommes en bonne santé, Dieu merci. Ce que je veux dire, c'est que au moment d'avoir envie d'uriner ou d'aller à la selle, eh bien, tu le sais, donc tu cherches des toilettes et tu vas. Lui, il a pas ce ressenti, il a pas il porte des couches.
Oui, c'est ça, des protections.
Ça part tout seul. Voilà. Ça part tout seul. Tout ce qui rentre, ça part systématiquement. Tu vois? Donc ce garçon, moi j'aimerais bien. Non, mais ce que j'aimerais bien, c'est qu'il puisse être aidé. C'est ça. Pas expliquer sa maladie, parce qu'il y en a tellement à dire. Voilà, s'il y a des personnes qui peuvent vraiment l'aider, l'héberger, en attendant des jours meilleurs.
Effectivement.
Oui.
Après, qu'est-ce qu'on peut dire de choses qui soient belles, j'allais dire.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut redire un petit peu, parler de la nature, de Dieu. Ça, c'est des choses intéressantes, existentielles. Comme l'autre hier, il disait, là, avec ces trucs existentiels, le micro, j'ai entendu la radio hier. J'écoutais, je suis pas trop là.
Oui.
J'allais dire, pour le faire réfléchir, et comme ça, ça lui aurait sûrement procuré beaucoup plus de cheveux blancs. Qui c'est qui était le premier, la poule ou l'œuf?
C'est Béziane, ça. Alors Béziane, il adore. Il a des questions.
Ah, voilà, donc si vous m'aviez laissé parler si on lui aurait dit ça, je suis sûr qu'il aurait gambergé pas mal de trucs.
Ah mais il gamberge tout le temps, Béziane. Ah, mais Zane, c'est un gambergeur né.
J'ai pas tellement envie de me pousser sur le sujet parce que c'est vraiment pas trop intéressant.
Alors, il pose toujours des questions sur Dieu, pourquoi Dieu, ceci, cela. Adam et Ève, alors il adore parler d'Adam et Ève, je sais pas pourquoi.
Ouais.
Et si Adam et Ève, ceci.
C'est vous qui, quand vous lancez des sujets,
Tu peux me tutoyer.
C'est intéressant là parce que toi tu le dis sincèrement avec respect, tu le dis pas pour avoir des contre-trucs, tu vois ce que je veux dire, parce que malgré que tu sois pas, comme tu le dis, religieuse, mais tu respectes, tu vois ce que je veux dire.
Ah oui.
Après les autres ça m'intéresse pas trop, moi tu sais, moi j'écoute il y a des voix qui ne sont pas de trucs, tu sais, j'écoute pas, tu vois, ça m'intéresse pas, donc car je bon, voilà quoi.
Non, mais je comprends. Mais bien sûr, puis c'est bon. Moi, je lance des sujets qui peuvent toucher tout le monde, hein, parce que c'est pas, on n'essaie pas de faire dans
des sujets sérieux qui sont voilà. Intéressants. Les gens se permettent après de dire n'importe quoi. Alors tu sais, c'est pas
ben, certaines fois, quoi. Malheureusement, on passe à côté. C'est dommage. Là, par exemple, ce soir, on va parler de Coluche. Et j'aimerais bien qu'on rende hommage à ce grand homme. Et j'ai demandé à Khalid, qui est quelqu'un de très sérieux. Et de très ponctuel.
J'ai entendu, c'est pas lui qui avait parlé de la défaire hier.
Ah oui.
Bah justement, il parlait de précision. J'ai connu les Emmaüs parce que j'ai fait quelques séjours en tant que compagnon, donc je sais comment ça se passe.
Ah, bien.
Après, ce qu'il a fait, les fondateurs, que ce soit Coluche ou l'Abbé Pierre, ils l'ont fait, ce sont des hommes qui ont fait des choses, qu'ils ont créé, qui se sont battus pour tenir quelque chose.
Bien sûr.
Ceux qui sont venus bien après, au fur et à mesure que des temps qui sont venus bien après, ça n'a plus rien à voir. Ce sont ensuite des entreprises et non plus l'essence humaine. Pour te dire, l'essence humaine est perdue. Hein. Il n'y a plus ces valeurs que l'abbé Pierre à l'époque avait fondées.
Cette spontanéité.
Que Coluche avait fondée. Mais grâce à Coluche et à l'abbé Pierre, eh bien, en ce qui concerne Coluche, par exemple, il y a des associations caritatives qui distribuent des colis, etc., de l'alimentation grâce à lui. Et ça perdure. Il a fait quelque chose dans l'humanité, comme par exemple Parmentier qui a innové au niveau de la pomme de terre. Il a permis de nourrir des êtres humains.
Ouais.
Et ça leur compte, tu vois. Même quand ils partent, ça leur compte, tu vois.
Oui.
Parce que ça traverse bien au-delà de leur mort. Tu comprends?
Oui, je comprends très bien. C'est vrai. C'est vrai. Alors, que ça devienne des entreprises, tout ça. Ok, parce que c'est comme ça. C'est l'époque qui veut ça.
Mais l'idée
est tellement formidable et tellement extraordinaire. Moi, je les vois, tu sais. Peut-être que certains vont, parce que souvent les gens, si tu veux, ils ont toujours cette connotation religieuse. Alors donc, il n'y a que les personnages religieux, le prophète ou Jésus ou Moïse, etc., ou Bouddha pour d'autres, qui ont droit de citer, etc., et puis les autres qui viennent après, qui font des choses merveilleuses, exceptionnelles. Écoute-moi bien. On va nous reprendre en disant, oui, mais enfin, faut quand même pas mélanger, c'est pas la même chose. Pourquoi? Je vois pas la différence. Vraiment, entre ces prophètes dont on parle, comme Jésus, comme le prophète Mohamed, comme Moïse, je ne vois pas. Je les ai pas connus. Je respecte. Mais par contre, mes contemporains, tels que Coluche, l'abbé Pierre, ok, sœur Emmanuel, mère Teresa. Entre autres, et le dernier Coluche, qui a fait des choses merveilleuses, Coluche, qui est parti d'une manière foudroyante. Ben moi, pour moi, je suis désolée pour les personnes. Peut-être que ça heurterait. Eh ben ils sont de la même. Je vois pas la différence entre eux, Jésus, le prophète. Ou c'est la même chose puisqu'ils font du bien. C'est des gens qui ont arraché les gens de la misère.
Des choses immenses, j'allais dire, des projets immenses pour leurs contemporains.
Mais c'est très important aussi de les mettre sur la même lignée. Je comprends pas. Je comprends pas qu'on dise non, les autres c'est exceptionnel, ceux-là non. Non?
Parce que tu parles.
Ils sauvent des vies. Ils donnent à manger aux gens.
L'abbé Pierre, par exemple, en ce qui concerne la rude période de l'hiver en 54, là. Bon. Eh bien, il fallait le faire, ce qu'il a fait. Personne.
Extraordinaire.
C'est lui qui
extraordinaire.
Qui a ouvert des portes, qui sait. Et au fur et à mesure, il a eu des gens qui sont venus avec lui.
Ce sont des hommes
qui ont été capables, qui ont, je sais pas dans quel état d'esprit ils ont poussé à faire ça, mais enfin, lui, peut-être qu'il était poussé par sa religion, sa foi, peu importe. Coluche par autre chose, mais franchement, attention, hein. Quand je dis homme, c'est femme, hein.
Oui, je comprends. Coluche, c'était un universaliste.
Je pense que même sans aller jusqu'à ces grands hommes, j'allais dire, parce qu'ils sont très médiatisés, ils le sont encore, et leur action est encore présente. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être à côté de chez toi ou n'importe quoi quelqu'un qui fait aussi des choses.
Bien sûr, je suis d'accord. bien sûr, je suis d'accord.
Voilà, donc comme il avait dit si bien, on apporte sa pierre, on peut apporter sa pierre, il avait évoqué ce terme, on peut apporter sa pierre à l'édifice.
Ouais.
Enfin, à l'édifice. Voilà, il n'y a pas de petite goutte d'eau, j'allais dire, ou de petite action qui ne soit pas bonne, quoi.
Oui, mais oui. Et puis tous ces hommes, les toutes ces femmes.
Les bouddhistes disent que même ne serait-ce qu'une micro action, tu vois, se multiplie, tu vois, prendre l'ampleur dans l'espace, etc. C'est comme si tu jetais une pierre dans l'eau, tu vois, ça fait des ricochets, tu comprends? Ça fait des cercles, des grands cercles, c'est pareil, quoi.
C'est vrai, c'est pas faux.
Alors,
Raoul, ne pars pas, on a une petite pause. Khalid, j'ai besoin de toi parce qu'il faut qu'on parle de Coluche et c'est très important. J'ai envie ce soir qu'on mette vraiment à l'honneur Coluche parce que beaucoup de gens entendent parler de Coluche ou les Restos du Cœur, mais ça va pas plus loin. Alors donc non, Coluche mérite aujourd'hui encore vraiment d'être en tous les cas son combat, sa lutte contre la misère, contre la faim mérite d'être connu aujourd'hui. On marque une petite pause et les autres, je vous attends au 01 53 48 3000. À tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Au 01 53 48 3000, oui, on parle de ces grands personnages, hommes et femmes, bien sûr, parce qu'on a tendance à oublier les femmes, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de femmes aussi qui font tellement de choses sur Terre, mais vraiment. Et beaucoup d'anonymes également. Ben oui, elles sont anonymes, donc on n'en parle pas, mais elles existent, et ils existent néanmoins. Et parmi ces femmes connues, hein, eh bien, Mère Teresa, on en a parlé hier, Sœur Emmanuelle, l'abbé Pierre, on en a parlé aussi hier, et on n'oublie pas, bien sûr, un des derniers, enfin, des derniers connus, bien sûr, Coluche, qui a laissé des traces. Aujourd'hui, encore, grâce à lui, des gens prennent leur petit chariot ou un couffin et vont s'alimenter et ramener à manger à la maison pour leurs enfants. Voilà, grâce à Coluche. Alors moi, Coluche, pour moi, c'est... Je sais pas, je le vois comme un prophète. Voilà. Il a rempli sa mission. Il y a Tessaha. Voilà. Donc il y a des gens qui compartimentent. Moi, je ne sais pas compartimenter entre les humains. Celui qui fait le bien aux autres, et bien celui-là mérite d'être cité. Voilà. Pour moi, c'est un... Oui, ça ressemble à un prophète, ça peut être un prophète. Quelqu'un qui fait du bien sur Terre. Aux gens, Coluche n'a jamais aimé la guerre. Coluche n'a jamais aimé il a jamais divisé les gens. Il aimait les gens. On le lui rendait bien. Et tout était passé par la dérision. Tout passait par la dérision. Et oui, parce qu'aujourd'hui, son humour passerait pas. Parce que c'est pas du second degré. Souvent, c'était du troisième degré. Eh bien, voilà. Et alors il parlait du racisme, il parlait tout, mais je veux dire, comme personne ne savait faire, il le faisait tellement bien, il se mettait dans la peau du raciste, vraiment, mais d'une manière, vraiment, c'est un grand personnage, paix à son âme. Et ce soir, j'ai envie qu'on lui rende hommage à Coluche avec Khalid. Raoul, tu pars pas, Raoul, on te mettra tout à l'heure à l'antenne. Alors Khalid, qui va nous parler de Coluche ce soir. Bonsoir Khalid.
Bonsoir Vanessa, merci de m'accueillir sur votre antenne.
Merci surtout, merci de revenir et de nous éclairer de tes belles lumières éclatantes, j'ai envie de dire. Hein. Tu vois, tu rencontres beaucoup de succès, hein. Les gens vraiment t'apprécient énormément.
Ouais. Alors j'arrive, quand j'interviens, c'est avec ta gentillesse, puisqu'on se connaît un peu.
Mais bien sûr qu'on se connaît beaucoup. Bien. Oui.
Et voilà, j'interviens, je le dis vraiment sans fausse modestie, j'interviens humblement. Voilà, si je peux apporter, c'est vrai que je t'écoutais comme tu disais très souvent, j'appelais très peu, alors pour différentes raisons...
Khalid. Deux pour.
L'équipe de France bute après un super travail de Kylian Mbappé dans la surface.
Mbappé, oui.
A priori, c'est Marcus Thuram qui a marqué le but.
Alors c'est Thuram qui a marqué le but.
Exactement.
Par contre, c'est une passation de
Mbappé. Une passe décisive de Kylian Mbappé, 2-0 pour l'équipe de France.
On est en train de revoir justement les images. Donc 2-0, 2 pour la France, 0 pour le Maroc pour l'instant.
Après une perte de balle depuis le rond central, ouais. Très très gros travail d'Aurélien Tchouaméni qui la donne pour Kylian Mbappé qui fait un très très bon travail.
Alors là, on est en train de voir comment il s'appelle. Ah, l'entraîneur...
Didier Deschamps.
Didier Deschamps. Ah, il se retient plus là. Il est monté au ciel là. Il a fait un bond. Voilà. Ben écoutez, que le meilleur gagne, nous, que ce soit les uns ou les autres. De toute façon, on n'est pas perdant, on est gagnant ici. Khalid, je te laisse continuer. Voilà. Donc, on annonce les résultats au fur et à mesure.
Très bien.
Ah oui. Alors, donc.
Oui, je te disais, j'interviens avec ta gentillesse, etc. J'interviens vraiment avec beaucoup de modestie. J'aimerais pas monopoliser l'antenne.
Mais non, tu monopolises pas. Tu apportes énormément. Et dans tes sujets que tu nous proposes, parce que tu nous donnes des références, en même temps tu cites des livres, des auteurs, etc. Et puis tu ne fais pas que cela, puisque tu approfondis et tu nous apportes, ce qu'on ne sait pas, parce qu'il y a des choses qu'on connaît qu'en surface. Eh bien écoute, moi je dis bravo, c'est très bien, comme tu l'as fait si bien hier avec l'abbé Pierre. Et aujourd'hui tu vas nous parler de Coluche.
Alors tu parlais de femmes, si un jour on a un peu de temps, j'aimerais parler d'une femme qu'on a oubliée, mais qui est une femme mais hors du commun, mais vraiment hors du commun par son courage.
Oui.
C'est Louise Michel, qui était une communarde de la commune de 1870. Et franchement, cette femme, tu parlais de sainteté, de personnes qui sont habitées par le sacré. Et Louise Michel, c'était une femme absolument, mais hors du commun par son courage, par le don de son existence. Et alors... elle a été déportée très brièvement, j'y reviendrai un jour si tu permets.
Ah oui, avec plaisir.
En 1970, elle a été déportée en Nouvelle-Calédonie. Et elle va rencontrer beaucoup d'Algériens qui ont été déportés.
C'était une anarchiste, je crois.
Exact. Enfin, une anarchiste, mais
c'est ce que c'est de la réputation. En fait.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Mais une anarchie, c'est pas forcément quelque chose de négatif.
Ah non, bien sûr.
Elle avait un idéal.
Oui, oui.
Et alors, elle rencontre beaucoup d'Algériens qui sont déportés en 1970 en Nouvelle-Calédonie parce qu'il y a la révolte des Mokranis en Algérie. Et elle va rencontrer ces Algériens, etc. Elle va écrire, d'ailleurs, dans ses mémoires au sujet de cette rencontre-là. Mmh. Et quand elle va venir dans son foulard rouge de révolutionnaire qu'elle avait, elle aura aussi de la couleur verte. Et c'est en référence à ces Algériens qu'elle a porté ce foulard pendant toute sa vie. Et alors, le hasard fait que, ayant travaillé un peu sur Marseille, eh bien, je m'aperçois que il y a un petit hôtel qui s'appelle, je crois, l'hôtel de la station, qui est juste à 200 mètres de la gare Saint-Charles quand on descend.
Oui.
Et j'ai appris que bien c'est là que Louise Michel a rendu son dernier souffle en 1905. Elle était venue encore une fois là soutenir des travailleurs et des grévistes à Marseille, mais épuisée par son combat qui a duré 40 ans, 50 ans, elle va disparaître. Et même Victor Hugo, dans ses carnets, va lui rendre hommage. Même Balzac, parce que cette femme était d'une abnégation, d'un altruisme absolument. Voilà. Donc, un de ces jours, je dirais deux, trois mots
écoute,
sur elle.
Avec grand plaisir, vraiment. Bah, écoute, formidable. Oui, moi, je t'invite à le faire la semaine prochaine, si tu veux. Hein. Voilà. Pourquoi donc, on organise ça, par exemple, on va dire lundi, si tu es OK.
Oui, pourquoi pas.
Pour commencer semaine vraiment avec... avec de la culture, j'ai envie de dire, parce que Louise Michel, beaucoup connaissent la station de métro. Bah ouais.
Oui, il y a la station de métro, c'est vrai, oui.
Oui, Louise Michel. Mais derrière.
Le Hall Opéré.
Voilà, exactement. Mais derrière la station, il y a une femme. Et cette femme, il y a une grande histoire. Hein. C'était une enseignante, je crois, à l'époque.
Mais
il faudrait que tu nous en parles, parce que vraiment, j'ai lu quelque chose d'elle il y a des années en arrière. Et c'est vrai que j'étais subjuguée par le personnage. Et toi, tu sauras mieux nous raconter un petit peu son...
Avec un courage, une force extraordinaire.
Voilà. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de Coluche. Alors, Coluche.
Oui, juste, Vanessa, tu parlais des mamans tout à l'heure. Alors, en un mot, lisez le livre d'Albert Cohen, Le livre de ma mère. C'est à tomber en larmes. Mais l'amour qu'Albert Cohen dit de sa mère dans ce livre-là, ça dépasse toutes les religions, toutes les tendances. C'est une déclaration d'amour à la maman en général, mais à la sienne, à Albert Cohen, qui est pour moi, à mon sens, hein, modestement, un des plus beaux livres écrits sur la maman.
Albert Cohen.
Ouais. Le livre de ma mère. Il a été connu surtout pour son autre livre qui a été un best-seller mondial, Belle du Seigneur. Mais le livre de ma mère, c'est absolument... ça a tombé par terre. Quoi. Cet homme était absolument... Ben, sa maman, c'était tout, comme pour nous tous, hein. Mais lui, il l'a écrit, en fait. Il l'écrit et il le dit avec des mots
avec
et
des
descriptions, des sentiments, voilà.
C'est magnifique.
Alors, sur Coluche, moi, je compte sur votre interactivité parce que je sais pas tout. Alors, sur Coluche, on sait quasiment tout de lui et pas tout. Alors, on parlait de l'abbé Pierre. Tu sais qu'en 85-86, lorsqu'il lance ses restaurants du cœur, il reçoit beaucoup, beaucoup d'argent. Et alors, il va faire un don dont personne n'a entendu parler, sauf 20 ans plus tard. Il va donner 150 millions anciens, pendant les francs, c'est en 86, 85 puisqu'il décède en juillet 86. Et il va faire un don, il lui reste un reliquat de 150 millions. Et il dit à un de ses proches, je crois que c'est Romain Bouteille ou René Laverne, on va les filer à l'abbé Pierre. Mais comme ça, sans rien dire. Mmh. Il fait ce don-là parce que lui réussit dans son action, Coluche, mais il sait que l'abbé Pierre lui aussi galère parce qu'il faut loger les gens. Lui, Coluche, nourrit les gens. L'abbé Pierre les loge.
Oui.
Et l'abbé Pierre, ça fait maintenant 60 ans qu'il faisait ça.
Incroyable. Coluche, oui.
Renvoie la, ça. Mais alors ça se sépare. Hein. Puis on lui renvoie ses 150 bâtons à l'abbé Pierre. Alors Coluche, c'est un fils d'ouvrier. D'abord, il connaît quasiment pas son papa, puisque je pense qu'il a 3 ans quand son père décède, très jeune, à une trentaine d'années, son père meurt.
Mmh.
Et sa maman qui va le faire vivre. Alors il vit du côté de Montparnasse, après il va à Montrouge. Alors Montparnasse, c'est un lieu qu'il a vu un peu grandir. J'aimerais attirer ton attention, Vanessa, parce que Montparnasse, c'est quand même un lieu assez extraordinaire, oui. Cette partie du 14e arrondissement, mmh. puisque Renaud est né là aussi, Renaud Séchant.
Oui.
Et Renaud Séchant a des parents très engagés politiquement, puisque mmh. son père et sa mère soutiennent l'indépendance de l'Algérie. Ça, c'est juste à mmh. mettre de côté.
Mmh.
Et un jour, on pourra peut-être revenir comment oui. Renaud a été très très vite un homme qui a connu l'engagement via son père et sa mère, puisqu'ils ont été très actifs pour aider la résistance, etc., algérienne, à Paris à l'époque. Alors Coluche, lui, c'est un fils d'ouvrier, mais alors il est d'une intelligence supérieure. Vraiment un homme d'une... Je pense que si on avait calculé son quotient intellectuel, je pense que c'est un type qui devait friser les 150, 160. Il avait une intelligence instinctive, mais des fulgurances. Sans être allé à l'école trop longtemps, il comprenait le monde, en fait, très vite. Il comprenait vite les situations, il les analysait un peu comme un ordinateur, et il trouvait des solutions. Et comme il se savait très impulsif, il s'est dit, si je continue à être comme ça impulsif, on va me fermer la porte partout. Il faut que je tourne ça en dérision.
Mmh.
Et alors, il s'aperçoit qu'il y a une autre qualité, c'est l'humour.
Oui.
Parce que à 20 ans, il rencontre un de ses copains, avec lequel il joue un peu partout, dehors, hein, il fait de la musique avec son pote, qui jouait du oud, d'ailleurs, t'as un Français qui jouait du oud et une chanteuse. Et il se produit chez Bernadette. Bernadette, c'est le premier café-théâtre qu'a créé un mec qui vient de Bordeaux et qui estime que les théâtres n'ouvrent pas la porte à la jeunesse contestataire. Et il va aller du côté de Montparnasse, c'est cette Bernadette, et il va apprendre un peu le métier. Et trop indépendant, il cherche des alliés et il va trouver Romain Bouteille. Même Renaud va faire partie de cette troupe-là et ils vont ouvrir un lieu qu'ils vont acheter comme ça très très vite du côté de Montparnasse, rue d'Odessa, et ça va être le premier café de la gare. Le fameux café de la gare qui aujourd'hui se trouve...
Ah oui, d'accord. Donc il y a eu un premier café de la gare, parce que moi je connais le second.
Eh oui,
celui
dans le Marais.
Qui est à Beaubourg. Oui, oui, oui.
Où c'est très beau d'ailleurs.
Moi j'adore. Moi,
rue du Temple.
Pour... Oui, oui, oui. Oui, il y avait la troupe...
Pour de la danse, c'est ça des...
Oui, voilà, exactement.
Ouais.
Au fond d'une cour, enfin, d'un espace.
Exactement,
de...
ouais.
Oh, c'est un lieu merveilleux.
J'ai rencontré une femme charmante il y a 2 mois d'ailleurs, là.
Ah oui?
Ouais, j'aurais dû prendre son numéro, mais bon.
Ah bah mince, t'as pas pris son numéro.
Non,
t'es timide,
mais pourtant,
toi
Bah alors, j'étais un peu gêné, je suis un peu timide.
Ah bon? Oh, je te connaissais pas, si timide, je sais pas.
Au téléphone, c'est facile de parler, mais quand on voit les gens, c'est pas facile.
Ah ouais?
Ouais, ouais.
Ah, c'est dommage. Mais si elle est à l'écoute. Hein,
bah,
jamais...
écoute, peut-être, oui. C'était, ouais, c'est une, ouais,
fin de... En plus, c'est un lieu magique. C'est un lieu magique, le café de la gare. C'est... Il y avait la troupe du Splendide.
Ouais. Moi, j'avais vu Smaïn à l'époque qui avait fait quelques scènes.
Oui, c'est vrai.
Et alors, le café de la gare, le premier se trouve rue d'Odessa.
D'accord.
Et plus tard, alors c'est un truc collectif, hein. Celui qui aide à faire les travaux doit être comédien aussi, doit travailler au bar. En fait, ils font tout ensemble.
Ils font tout, oui, c'est vrai.
Tout, hein, tout ensemble.
Oui, ils balayent, ils font tout.
C'est ça, exact. Ouais. Et d'ailleurs, Renaud va connaître ce café de la gare, le premier rue d'Odessa. Il va y passer un moment. Il est très jeune, il est déjà très débrouillard. Renaud, bien qu'il soit d'une famille très à gauche, mais en même temps, c'est une famille aisée, hein, Renaud. Hein. C'est pas des... son père est enseignant et son père, pour la petite histoire, est un écrivain. Il écrit des livres policiers, mais sous un pseudonyme de nom américain, parce que ça se vendait bien avant les séries noires.
D'accord.
Et en fait, il découvre l'écriture via son père aussi, comme ça, et le discours politique du père, de la mère, l'engage à ce qui est aujourd'hui, quoi. C'est un révolté, c'est un écorché vif. Renaud, c'est peut-être pour ça qu'il est un peu dans cet état. C'est un homme très fragile, sensible. Il fait partie de cette troupe-là. Mais Renaud est trop, Coluche est déjà très indépendant, et grâce notamment à Romain Bouteille,
oui.
Qui est un type extraordinaire, qui vit encore d'ailleurs, Romain Bouteille.
L'époque de Patrick Devers.
Comment elle
s'appelait? Patrick Devers, Miu, Miu,
il est avec Miu. Eux. Exactement, il y a Patrick Devers, il y a Miu Miu,
Miu,
Miu, Miu qui
va, voilà,
par là aussi.
Exactement.
Il y aura aussi Romain Goupil, qui est un autre complice aussi. Et le fameux Gérard Lanvin aussi.
Gérard Lanvin, oui, c'est vrai.
Alors lui, c'est un type qui va beaucoup compter, parce que lui, il sera quasiment jusqu'au bout avec Coluche, parce que c'est lui qui va lui écrire les textes et qui va lui ramener les petites coupures de presse quand il sera animateur à Europe 1, et dont il sera viré plus tard au bout de 6 mois, parce que Coluche, on peut pas l'arrêter, quoi. C'est un type qui a... Voilà, c'est des fulgurants, c'est une tempête, cet homme drôle, mais Hercule, il n'a peur de rien, finalement. Et Gérard Lanvin va l'accompagner beaucoup dans l'écriture, dans la préparation. Et Gérard Lanvin parle beaucoup de bien, d'ailleurs, de Coluche encore aujourd'hui. Et alors Coluche, quand il décide un moment pour rigoler, lorsqu'il commence à être en 74, il se lance, on a Giscard qui arrive, Coluche qui a à peu près 24 ans, là. Et il dit, il fait un spectacle. Alors, il a fait beaucoup de café-théâtre, et même dans les bistrots, ses copains disent, il avait l'art d'exploser un café. C'est-à-dire qu'il avait un humour ravageur. Dans les bistrots, ceux qui partaient, ceux qui rentraient, il avait un mot pour tout le monde, et il avait une drôlerie infernale.
C'était
à 24 ans.
Ah, c'est inné.
Alors quand il commence, dire.
Pardon, oui. C'est inné, c'est un don.
C'est inné, exactement, oui. C'est un don. Je disais qu'il avait une intelligence
incroyable,
mais une grande intelligence, une grande intelligence à comprendre très
vif d'esprit, très vif.
C'est ça, très vif. Et là, lui, en fait, il n'a pas besoin de faire d'études, parce qu'il comprend l'existence. On dirait qu'il comprend la vie des gens. En fait, il voit à travers les choses et les gens. C'est un don qu'il a.
Oui.
Et en 74, Paris commence à entendre parler de lui beaucoup. Il y a un mec qui est très drôle, là, Michel Coluche, etc. Et un peu à la fois, certains décident de le produire. Et il va rencontrer un peu à la fois deux hommes extraordinaires. Il va rencontrer Paul Lederman, qui est un producteur.
Oui.
Qui a compris la puissance qui dort chez ce jeune gars-là. Paul Lederman va lui proposer d'être son producteur, avec un autre aussi, un certain Michel Segaldi ou Augusti, j'ai oublié le nom du second. Et il va faire un premier spectacle qui est dans le titre, tout de suite, est drôle, le titre, puisqu'il dit « Mes adieux au spectacle », alors qu'il vient d'arriver, quoi.
Oui.
Ça s'appelle « Mes adieux au spectacle », comme si c'était un Maurice Chevalier ou un Frank Sinatra. Il commence d'emblée par « Mes adieux au spectacle ». Ça va durer... Pendant 5 saisons, il va l'appeler Mes adieux au spectacle, et ce spectacle va évoluer, puis on sent que ce type, comme tu disais tout à l'heure, il fait le policier raciste, et puis alors, il fait aussi le français moyen, il fait un peu le coco, après, il comprend qu'en fait, le problème, il est un peu plus haut, c'est les politiques. Et là, quand il commence à s'attaquer aux politiques, je fais des grandes impasses.
Quand il s'est présenté aux élections.
Voilà, et on arrive aux élections, il présente ça pour rire.
Oui,
il voit que la presse, en fait, le prend au mot.
C'est une boutade au départ, hein. C'était vraiment une blague.
Mais finalement, les gens le prennent au sérieux, puis il y a une dimension politique, et il déclare dans un spectacle, en riant, les amis, je me présente aux élections présidentielles en 81.
Ouais.
Et finalement, de la blague, les gens le prennent au mot. Et lui, c'est le mec qui ne recule pas, il attaque, il dit, écoute, je vais me présenter. Il dit, j'ai pas de programme.
C'est en 81, hein.
En 80, il commence à lancer des pics à travers tout le monde. Et il sent que la pique principale, eh bien, c'est un peu Giscard avec l'histoire des diamants.
Et tu as vu la bannière avec laquelle il se présentait.
Oui, bien sûr, à peine vêtu.
Bleu-blanc.
Voilà.
Bleu-blanc-rouge. La suite, je vous laisse deviner. Aujourd'hui, on ne pourrait plus. C'est pas possible
impossible.
De faire. Tout était possible à l'époque. Parce qu'il y avait le second degré qui était. Aujourd'hui, on ne peut pas. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut plus parler de rien. Tu peux pas, faire de blagues sur la religion, sur la politique, sur tout est pris au premier degré.
Sur quasiment tout.
Les femmes, tout. Il n'y a plus d'humour aujourd'hui. Il n'y a plus.
Il y a la grosse blague, si tu veux, ça on peut le faire.
Bien lourdeau.
La grosse blague, ouais. Bien grasse,
ouais.
Mais sans plus. Ouais. Tu sais, il y a une belle citation d'Ernest Hemingway, l'écrivain américain, qui disait « C'est dans la blague que commence la pourriture. » Salut, tout est dit. C'est pas de l'humour, c'est pas de l'esprit. La grosse blague, en fait, tout ce qu'il y a de sale se cache derrière. Ouais. Hemingway avait compris, derrière la blague se cache la pourriture de mauvaises intentions ou sous prétexte de rire.
Ouais.
On est très violent derrière.
C'est
mais il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas la finesse.
Non.
Pas la tournure.
Lui, il avait
qui
ça.
Fait, bien sûr. Et, alors, on
c'était l'époque aussi de Pierre Desproges. Pareil. Alors, Pierre Desproges, c'est encore. Voilà. Et puis l'autre aussi. Alors, il y avait Desproges et.
Il y avait Bedos aussi qui était là.
Alors,
il y avait, Desproges.
Oui, voilà.
Alors, on va essayer de se rappeler. En humoriste, c'était les deux qui brillaient beaucoup. Hein.
Ouais, ouais.
Je vois
exactement.
Pas qui.
Alors, c'était dans le.
Hein.
Alors, c'est très loin. Très loin.
Ouais,
c'était avec Stéphane Collaro, le petit rapporteur.
Ah oui, avec le
Collaro.
Il y avait
toute l'équipe. Il y avait celui qui était décédé très vite, hein, d'ailleurs, qui est parti très tôt, qui faisait dans le troisième degré, je crois, ou je ne sais plus.
Oui, alors, il y avait Prévost, Daniel Prévost aussi.
Ah Daniel oui, Prévost. Voilà, Daniel Prévost, qui est toujours vivant. Voilà, mais des proches qui faisaient dans le. Je sais plus quelle dimension, je sais plus quel
dans
niveau.
Dans le 150e degré,
je...
lui.
Oui, je sais plus quel.
C'est incroyable. Alors, lui, c'était hallucinant. Hein. C'était prodigieux d'intelligence.
Alors, ne quitte pas Khalid. Khalid, ne pars pas.
My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Want more and more, people
just... Ben vous avez compris, ben ouais, vous avez compris ce qui se passe. Eh bien, ça y est, le match est terminé. La France a gagné 2-0 contre le Maroc.
Donc, sur des buts de Lucas Hernandez. Enfin, Théo Hernandez, je vais y arriver, c'est son frère. Et Kolomani qui a scellé le sort pour les Français. J'ai juste envie de dire bravo aux Marocains qui se sont battus pendant toute cette compétition.
Exactement, qui ont fait rêver. On est très tristes, vraiment, pour le Maroc.
Tous les Africains, donc bravo à eux.
Mais...
ils sont pas lâchés et ils jouent juste la troisième place face à la Croatie. Ils sont capables de les faire. En tout cas, voilà, on envoie toute la force pour nos amis marocains. Et j'espère
et
voilà,
qu'ils sont arrivés quand même jusqu'à la demi-finale. Hein. Ils sont arrivés aux demi-finales. On leur dit bravo Marocains, vous vous êtes battus comme des lions. Bravo, mais il fallait un gagnant. Bon, ce soir, eh ben, c'était la France.
Et, bravo
comme, et comme on l'a dit tout à l'heure, quel que soit le gagnant, peu importe, eh bien, on était de son côté parce que c'est la famille. Le Maroc, c'est la famille. La France, c'est la famille aussi. Eh ben, on est content que la France se présente à la finale, hein, c'est ça.
Contre l'Argentine.
Contre l'Argentine dimanche, voilà. Donc, on sera derrière les Bleus, tous derrière les Bleus dimanche, pour que la coupe, eh bien, nous
rentre à la maison, comme on dit.
Eh oui. Alors, je te laisse avec le jingle. Le non, c'est le
la alors, musique.
Oui, comment on a... alors donc c'est la musique de ben, du mondial. Pour la France, des Bleus.
Exactement, l'équipe de France utilise
alors,
le gala.
Je ne sais plus comment on appelle les musiques de foot, là.
L'hymne.
L'hymne, voilà, chercher le nom. Oh là là, moi, je jiggle. Moi, je parle en langage radiophonique.
Oui, on dit les deux.
Est-ce qu'ils sont contents, nos amis? Vous êtes contents? Là, tout le monde est là. Alors, on a Raoul, on a Méziane, Ezoul et Khalid.
Azoul.
Ben écoute, Azoul. La France a gagné, Méziane. T'es content ou
pas? Ben, you. Que le meilleur gagne, hein.
Ben c'est ce qu'on a dit. Bon, ils ont été meilleurs.
J'espère qu'ils vont pas casser aux Champs-Élysées, hein.
Ah, arrêtez avec ça, casser. Ils vont pas casser.
Écoute,
pourquoi ils vont casser?
Ben, des fois, il y en a qui cassent.
Arrêtez
hein.
de regarder trop certaines chaînes de télé qui vous.
C'est news.
Oh, franchement.
Ah, tiens, on le voit plus, Zemmour, là. Qu'est-ce qui se passe? Il est où? Il est parti en vacances?
Il est en vacances, hein. Non.
Allez. C'est incroyable, ces news, comment ils sont.
Peut-être peut-être qu'on va avoir droit à un France-Argentine dimanche.
Mais c'est ça, c'est France-Argentine dimanche.
C'est France-Argentine dimanche.
Bravo, bah vraiment, tu devrais faire des chroniques dans les plus grandes radios de France.
Eh ben, on est dans la plus grande radio aussi.
Ah oui, non, c'est vrai, tu le mérites. Et donc, je suis en admiration devant tes exposés.
Eh ben, écoute, Khalid était d'ailleurs ici animateur sur Beurre FM.
Ah bon?
Mais bien sûr, Khalid.
Ah, je savais pas.
Ben, j'arrête pas de le dire.
Ah ben, bravo, bravo. Mais c'est quoi ta formation? C'est quoi?
Ben, sa formation, c'est.
Ma formation, elle est tout azimut, elle est pluridisciplinaire. C'est de la curiosité.
Ah ben, bravo, bravo. T'es un autodidacte.
Ouais, voilà. J'ai fait l'université buissonnière.
Ben, bravo.
Comme quand
bravo.
Tu veux, ça marche hein, parfois.
Ah, mais félicitations. Non, franchement, c'est très intéressant à t'écouter. Hein.
Oui, ah, merci, Média. Effectivement, ah, ouais, c'est
moi,
vrai.
Je te verrais bien comme pédagogue, professeur de tous les auditeurs de la radio.
Oui, en plus, il a beaucoup de patience, vous remarquerez. Ah, très oui. Patient, très à l'écoute.
Moi, j'aime bien. Non, puis t'as un timbre de voix calme, détendu, oui. Agréable, sympathique. Vraiment. On a bien t'écouté. En plus, on plonge. T'arrives à nous intéresser dans le
oui, temps. Il captive. Voilà, exactement. Et
il capte l'intérêt des gens, c'est vrai.
Oui, parce qu'il a des choses à dire intéressantes.
Ah oui, moi je me rappelle culture générale. Il y avait des profs quand ils parlaient, j'en avais rien à foutre. Il y en avait d'autres.
C'est vrai.
J'avais envie d'en savoir plus.
Mais oui. Tu vois, Khalid, hein?
Et puis j'avais une maîtresse qui ressemblait à Vanessa
voilà.
Aussi.
Ah ben voilà, on y arrive.
En mini-jupe et tout, elle était. Hein.
Non mais attends, regarde comment. Khalid, t'as vu comment il me voit, Méziane, en mini-jupe. Mais ça fait longtemps.
Non mais elle était belle, elle avait les ongles rouges.
Non, ils sont verts là, mes ongles, ils sont verts.
Et le rouge aux lèvres, des talons.
J'ai pas de rouge à lèvres. Ah ben j'ai pas de talons.
Une mini-jupe, non plus. Des barésies.
Alors c'est pas moi du tout. Ah j'ai horreur. Comment? Ah les barésies, quelle horreur. Alors c'est pas moi du tout. Les talons hauts, c'est pas moi. Et puis en plus, je me mets jamais, très rarement en jupe.
Je
et
confirme.
Encore moins en mini-jupe. Alors là vraiment, c'est pas mon truc du tout.
Vanessa,
depuis de nombreuses années. Oui, Khalid.
Vanessa, c'est nous warantéana. Ajdi Gannar, Méziane.
Ah merci Khalid.
Vanessa, c'est Ajdi Gannar.
Voilà. C'est notre fleur. Voilà.
Tu vois, Khalid, il sait me parler, tu vois, voilà.
Eh ouais.
Il est délicat.
Ouais, il y a beaucoup de...
C'est une
romantique.
Hortensia.
Raffiné.
Hortensia. Alors toi, t'es bloqué sur les hortensias. Je sais pas ce qui s'est passé dans ta vie avec les hortensias. Mais Ziane, il faudrait qu'on fasse une analyse, là.
Je crois qu'il est tombé dedans, petit.
Peut-être. Il est né dans un hortensia. Il y en a dans les choux. Lui, il est né dans un hortensia.
J'aime toutes les fleurs. Et moi, une question que je voulais vous poser, toi, Khalid, et puis...
Pose-la, Khalid,
Anthony,
il t'écoute.
Vanessa et des auditeurs.
Vas-y.
Est-ce que toutes les marguerites ou toutes les roses ont le même nombre de pétales?
Bah non.
Alors là, c'est une bonne question.
Non, mais Méziane, il est... C'est un spécialiste des questions qui n'ont pas de réponse. Qu'est-ce que je te dis?
Méziane, oui. Dis-moi, est-ce que tu bosses pas dans un magasin de jardinage ou
parce non, il parle de tout, il parle de
non, parce que je pense qu'il devrait bosser là-bas, hein, vu ces questions-là sur les hortensias, les fleurs, les arbres et compagnie.
Mais non, il te
dépose un CV, on sait jamais.
Edelweiss, je suis sûr que vous connaissez pas les Edelweiss.
Alors,
attends, Méziane, ça c'est du kabyle, Edelweiss. Edelweiss.
Ah oui.
C'est du kabyle, ça.
C'est une fleur qui pousse qu'en altitude, je sais pas, à 2000 ou 2500 mètres. En dessous, il n'y en a pas.
Dans le Jourjoura, alors?
Jourjoura, même ici, dans les Alpes.
Mais Edelweiss, c'est un mot suédois, scandinave, ça veut dire paradis chez eux, je crois, les Edelweiss. Au départ.
Ça, je sais pas. Moi, je connais pas la Scandinavie.
La Deloitte, c'est un paradis, en fait.
La Scandinave.
Un terme scandinave. Ouais, je crois, ouais.
Toi, tu es originaire de quoi? De Maroc, d'Algérie, d'où?
De Tarbélé.
D'Algérie. Alors, est-ce que toi qui es bien, quand même, informé par rapport à moi, est-ce que l'histoire de l'Algérie, est-ce que t'as cherché à savoir si nos ancêtres, à nous, les Algériens, étaient des Gaulois, des Romains,
des Gaulois,
des Phéniciens, des Mongols, des Égyptiens. D'où ils viennent les Algériens? D'où ils viennent?
Alors là, c'est compliqué, mais je peux te répondre par une petite
pirouette.
Tournure. Quand on me posait la question, Et on avait souvent dit nos ancêtres les Gaulois. Et moi, je voulais faire un mix entre Gaulois et le Sud, et l'Algérie et l'Afrique du Nord. Je disais mes ancêtres les Gnawa.
Ah, les Gnawa.
Pas mal.
Diffusion.
Voilà. Pas mal.
Mes ancêtres sont plus des Gnawa que des Gaulois, mais j'ai aucun mépris pour les Gaulois.
Mais tu as raison. Mais je pense que quand on parle d'ancêtres, et tu as dû déjà m'entendre le dire à l'antenne, parce que quand on parle, par exemple, d'ancêtres, et d'ailleurs, on s'est pris un petit peu le bec, toi et moi, pour rester poli, quelquefois, sur ce sujet-là, quand on parle de, parce que tu as des personnes qui disent, moi, je suis fière de mes ancêtres. Et, alors donc, j'ai commencé à réfléchir à la question. Fier, ok, de ses ancêtres, mais pourquoi? Alors, quand tu remontes dans le temps, eh bien, d'abord, on connaîtra jamais nos ancêtres vraiment. On sait pas ce qu'ils ont fait. On sait pas si c'était des brigands de grand chemin, des tueurs, des égorgeurs. On sait pas.
Ah oui.
Peut-être
sûr,
dans la lignée. Donc, moi, je vais pas être fier d'un ancêtre qui peut-être, qu'est-ce qu'il a fait d'exceptionnel, peut-être qu'il a commis des actes graves. Donc je dis toujours non, il y a pas de, je respecte mes ancêtres, je suis fier, non, je respecte mon voisin.
Non, mais l'histoire de dire je suis fier, si tu veux, c'est une façon de parler, parce que pour se mettre en opposition par rapport à d'autres, c'est tout.
Oui, mais faut pas.
Ben non, il faut pas.
Mais
quand quelqu'un t'énerve et te dit vous en Algérie ou là, moi je suis fier. Voilà.
Non.
C'est une façon de se défendre.
Non, sans ça. Non, mais ça c'est absurde parce que il arrive un âge où on n'est plus ado. Mais sans se défendre.
Mais
tu l'entends dans des discours.
Je t'avais posé une question à toi, Vanessa. Je prends tous les auditeurs à témoin.
Oui.
De nous ramener un historien pour nous parler de l'Algérie.
C'est vrai, tu l'as dit.
D'où ils viennent, les Algériens? Il y a une composition en Algérie, c'est un peuple composite, puisqu'il y a des arabophones, des berbérophones, et même chez les berbères, il y a différents trucs encore.
Différents langages, différentes langues, ouais, c'est vrai.
Donc, d'une certaine manière, on est des tribus.
C'est ça.
On est des tribus.
Oui, des tribus, oui.
Je voudrais bien savoir s'il y a un historien ou même deux historiens qui peuvent se confronter pour essayer de nous donner un éclairage. Parce que, franchement, depuis le temps que j'essaye de savoir, je n'arrive pas à trouver quelqu'un qui me dise.
Il serait bien
vraiment
qu'on le fasse, tiens.
Je pense, ce qu'on sait aujourd'hui, avec quasiment preuve à l'appui, c'est que les premiers peuples dont on est sûr de l'origine qui ont habité l'Afrique du Nord, ce sont ce qu'on dit des Amazirs. Ça, là-dessus, il n'y a aucun doute. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de peuples qui se sont agrégés. Les Arabes arrivés très peu nombreux, finalement, avec Khalid Ben Walid, avec celui qui a été tué en bataille par Kosila, j'oublie son nom, qui est enterré du côté de...
De Ghouta
c'est beaucoup plus à l'avènement de l'islam. Sidna Qubba. Ces gens-là arrivent avec des cavaliers, mais ils font pas le poids, donc ils négocient. Après, il y a la Kaïna qui va se défendre. Mais alors, pour la Kaïna, ce que je voudrais préciser, c'est qu'elle connaît rien des Arabes, la Kaïna. Elle connaît rien de l'islam. La Kaïna défend son territoire. Elle défend l'indépendance. On dit qu'elle était juive parce que c'est une des premières religions qui a été introduite en Afrique du Nord.
Oui, je crois.
Ou l'arrivée de beaucoup de juifs en Afrique du Nord.
En Afrique du Nord, il y avait toutes les religions mélangées. Il y avait des païens, il y avait des chrétiens, il y avait des juifs, il y avait
l'Église.
Il y a un truc qui est quand même qui m'interpelle. Paraît-il que dans le Hogar, dans certaines grottes il y a des écritures en tamazir, c'est-à-dire en tifinagh.
Ouais. Il y a encore des roches.
Je voudrais bien savoir s'il y a eu des écritures de livres, ou si c'est juste ce qu'il y a eu dans les grottes, ou s'il y a eu des livres qui ont été écrits après.
Peut-être des parchemins mais qui n'ont pas été trouvés, mais le livre n'existait pas.
Ou je sais quoi.
Il y avait que des palimpsestes, ils appelaient ça les Grecs, espèce de livre écrit sur de la peau de mouton, etc. Des manuscrits.
Voilà. Ça doit être intéressant de voir s'il y a eu quand même des récits. Parce que dans les grottes, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a d'écrit. Est-ce qu'il y a des phrases entières ou pas?
L'Afrique, L'Afrique du Nord, c'est une tradition orale. La tradition amazir,
c'est une tradition
orale. Après, il y a eu des écrits écrits en libique. Le libique, c'était un mélange de phéniciens et, on va dire, de tamazir, quoi, de berbères.
Les phéniciens, c'est les Libanais d'aujourd'hui.
Exactement, c'est les Syriens, Libanais, etc., qui vont s'installer à Tunis, d'ailleurs, et une partie de jusqu'à Constantine, grosso modo, quoi, où il y a eu ensuite la... Ce fut plus tard Sirta, la capitale de Massinissa. Ils sont à peu près installés là, ils faisaient du business.
Sirta, c'est pas à Constantine, ça ?
Si, c'est ça, ça s'appelait Sirta,
les Constantine. Ah, voilà.
C'était le royaume de Massinissa qui va, lui, voilà. C'est très long, après.
Mais tu sais que Vanessa est descendante de Cléopâtre.
Ah ben, c'est clair.
Ah ben oui.
Dacia Djebar.
Exactement. Ben oui, c'est vrai. Ah ben tu vois, il en sait des choses, Khalid.
Vanessa, toi qui es quand même.
D'où mon caractère très obtus.
Toi qui as une responsabilité culturelle à la radio Beurre.
Oui, Beurre FM.
Tu pourrais nous faire venir un historien quand même.
Ben écoute, promis, pour la nouvelle année. Ah ben oui.
Écoute, on pourrait lui poser des questions. Déjà, toi, tu pourrais lui poser. Mais nous, on pourrait intervenir. Et ça serait très intéressant.
Bah écoute, je vais préparer ça vraiment pour la nouvelle année.
Ton patron, là, comment il s'appelle là,
non, mais moi, je vais le faire. Je suis capable de le faire. C'est pas les patrons qui font, c'est nous. Tu comprends, on n'a pas de maître d'école ici sur Beurre FM. D'abord, mon patron. Et d'ailleurs, arrête de dire. Voilà, parce que vous avez toujours tendance à penser que les patrons, forcément, c'est des hommes. Non, c'est une dirigeante ici. Et qui s'appelle Djima Ketan. Voilà, donc c'est une femme. Djima, tu sais ce que c'est une Djima ? C'est la petite étoile.
Djima. Ah,
voilà, donc c'est une femme qui tient vraiment à bout de bras.
Il y en a un qui a écrit un livre.
La radio.
Djima.
Oui, mais là, on est en train de parler de la radio, parce que là, on s'éloigne. Mais je vous promets, vraiment, que je ferai de mon mieux pour trouver un historien qui soit neutre, parce que, il faut vraiment trouver quelqu'un qui ait vraiment des connaissances spécialisées dans l'Afrique du Nord.
Vanessa, s'il te plaît, vite fait. Hein. Excuse-moi, Khalid. Tu devrais demander au service culturel de l'ambassade d'Algérie s'ils peuvent nous faire venir à la radio quelqu'un qui va nous expliquer comment on enseigne l'histoire de l'Algérie aux élèves à l'école en Algérie.
D'accord.
On parle de partir de quand ?
On peut poser la question, oui.
Demande au service culturel de l'ambassade d'Algérie.
D'accord. Et puis je peux aussi poser la question. Sans passer par des institutions, etc. Je peux poser des questions, ce genre de questions, des personnes de nos connaissances qu'on a, qui sont en Algérie, qui enseignent, tout simplement.
Bien sûr.
Voilà. Pourquoi faire.
Parce qu'on est vraiment. Moi, je remarque qu'on parle pas beaucoup de notre histoire. On parle du présent.
Bah oui, mais nous ici, c'est normal.
Tu sais que c'est très important l'histoire.
Mais Yann.
Oui.
Si tu permets.
Oui, je t'en prie.
La radio fait son travail comme elle peut le faire et je pense, comme le dit Vanessa, elle s'engagera à faire venir. Mais moi, j'ai toujours dit aux gens, j'aime bien être dans les bibliothèques, mais elles sont vides, les bibliothèques en France. Pourquoi on va pas lire ? Et moi, je peux vous dire,
c'est vrai.
On devrait y aller. Moi, c'est pas un reproche.
Moi, j'adore ce que tu dis. Khalid, ne pars pas, mais Yann non plus. On a une petite pause, s'il vous plaît. Une petite pause, on revient juste après. Et les autres, on vous attend. Allez, on est là. 01 53 48 3000, venez participer à cette discussion, à cet échange. C'est des sujets qui, ma foi, je pense, vous intéressent. Vous êtes à l'écoute. Mais venez participer, poser des questions. Et puis, venez aussi nous apporter peut-être quelques réponses. À tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Et la France a gagné 2-0 contre le Maroc. Voilà. Eh bien, c'était un match très compliqué, hein. Très très compliqué. Eh ouais, parce qu'on ne savait plus. On ne savait plus qui soutenir. Voilà, et qui allait gagner. Maintenant, on le sait. De toute façon, que ce soit l'une ou l'autre des équipes, on était avec les deux. Voilà, c'est clair. On était avec les deux. On est content aussi que la France ait gagné et qu'elle finisse cette belle Coupe du Monde dimanche face à l'Argentine et que la Coupe vienne à la maison, comme on dit, hein. Voilà. Bah oui, c'est pour nous la coupe, hein, de toute façon.
On espère, on espère.
Mais oui, on n'espère pas, on est sûr. Voilà, c'est comme ça.
On touche du bois. En tout cas, encore une fois, bravo aux Marocains pour leur magnifique parcours.
Exactement, c'est vrai. Ils ont été vraiment très forts. Ils se sont battus comme des lions. Alors, on reprend avec Méziane et Khalid. Alors, oula, Méziane. T'arrives au bout de ta vie, là. Hein. Allez, vas-y, un petit coup. Allez, danse, vas-y, Méziane. Allez, hashtag, hashtag. Allez, va, Méziane. Tu danses, là ?
On a gagné.
Méziane, il danse pas.
On a gagné les doigts dans le nez. Et on a perdu les doigts dans le...
Arrête !
Scandaleux.
Heureusement qu'on a Khalid hein, pour relever un petit peu le niveau. Ouais, hein.
Écoute, moi je respecte Méziane.
Ah bah oui, mais enfin.
Dans ses débordements.
Toi tu respectes, mais lui, le respect, il ne connaît pas trop. Hein.
Dis-donc, les amis.
Oui, alors.
Alors, vous savez que la Terre et les océans, il y a trois fois plus d'océans que de mer, que de terre.
Mm-hmm.
Donc, les continents sont très éloignés les uns des autres.
Mmh.
Avant qu'il y ait des embarcations, les hommes ne savaient pas traverser les océans. Et pourtant, il y avait des hommes de l'autre côté. Est-ce que c'est Adam qui les a emmenés sur son dos ?
Encore ? Mais hein ? C'est pas possible. Qu'est-ce que t'as contre... contre, plutôt. Avec... Qu'est-ce que t'as avec Adam ?
Non, j'ai rien. Adam. Je cherche à savoir.
Ah, écoute, hein,
ça me perturbe, dans les ça, tu sais. C'est une question existentielle pour moi.
Quelle chance que tu as. Mon Dieu, je t'envie. Parce que avoir des idées, mais alors aussi abracadabrante, eh bien, ça veut dire que t'as pas de problème dans ta vie. Alhamdoulilah pour toi.
J'en ai des problèmes, t'inquiète pas.
Pourquoi il va pas au musée d'histoire naturelle ?
Adam, non mais attends. C'est tout ce que t'as trouvé.
Je suis allé au musée de l'homme plusieurs fois.
Bon, parlons de nos contemporains.
J'ai vu comment elle s'appelle. Comment s'appelle la plus vieille fille du monde ?
Lucie.
Lucie, elle te ressemble un peu, Vanessa.
Oui, mon deuxième prénom c'est Lucie. Mais Méziane, c'est pas notre ancêtre le plus vieux, le plus ancien. C'est pas vrai, parce qu'il y en a eu d'autres découvertes sur d'autres continents entre temps. Voilà.
Oui, pareil. Oui.
Alors Khalid, donc on va continuer avec Khalid. Là, on parlait de Coluche qui quand même mérite au moins quelques minutes.
Hein? Encore 5 minutes.
Voilà, alors vas-y, c'est intéressant.
Quand il se présente aux élections, alors il y a tout. Alors au départ, c'est une curiosité, hein, tout le monde en parle, il est invité un peu partout. Et comme c'est pas un politicien, eh bien, encore une fois, c'est sa verve et son humour caustique qui arrive tout le temps à le sortir en fait des questions les plus piégées des journalistes. Il va être méprisé, on va l'appeler de poujadiste, autrement dit, on dirait de le péniste aujourd'hui. Qui divise, il risque de faire du mal à la démocratie, etc., et d'ouvrir la porte à d'autres candidats farfelus. En fait, lui pose de vraies questions sur les inégalités, sur la pauvreté, et il veut en savoir plus un peu sur le fonctionnement de ce système qui passe bien de gauche à droite, sans arrêt. Et surtout, il le dira pas, ça c'est, je vais l'apprendre plus tard, en termes de sociologie, il est soutenu par deux sociologues importants, dont quand on veut trouver les noms, on les trouve pas. Et alors, il se dit, mais pourquoi l'Assemblée ? Il n'y a pas beaucoup de gens d'origine ouvrière. Et plus tard, je découvrirai qu'en fait, en 45, lorsque De Gaulle va prendre les rênes du pays au sortir de la guerre, il y avait 24% de l'Assemblée nationale qui était composée de fils d'ouvriers. Tu sais combien il y en a aujourd'hui ? Il n'y en a pas 1%.
Ah oui ?
Ah, vas-y, non.
Donc, il y a une régression terrible. Et Coluche pose la question, en fait, voilà, pourquoi ces questions-là. Et alors, ça continue, et après, je passe, hein, je glisse, je vais très très vite, il commence à être dangereux dans les sondages, eh bien, il prend des voix, tout le monde, il prend des voix aux socialistes, aux communistes, qui le méprisent. La seule qui va dire, au nom de la liberté d'expression et de la démocratie, c'est Force Ouvrière, qui va dire non, la candidature de Coluche, je ne la soutiens pas, elle dira Arlette Laguiller, mais elle est intéressante dans le débat politique. Tout le monde va le zapper parce qu'il y aura des ordres politiques, notamment lorsqu'il va travailler à RMC, il va attaquer directement Giscard avec les diamants. Or, le patron d'RMC est l'ancien directeur de cabinet de Giscard, donc il le vire, et il se retrouve à la rue. Et tout le monde lui ferme les portes finalement. Et je m'amuse en voyant certains reportages aujourd'hui, des célébrités aujourd'hui, des médias, qui disent « Ah, mon ami Coluche, mon Coluche à moi ». Alors que c'est pas comme ça. Et aujourd'hui, ils en parlent tous comme si qu'il avait soutenu. Hein. C'est pas vrai. Ouais. Tout le monde lui ferme la porte. Le seul qui lui restera fidèle jusqu'au bout, mais tout le temps, c'est Charlie Hebdo. Charlie Hebdo le soutient à la mort, jusqu'au bout. C'est, voilà, ah, Charlie Hebdo qui
est. Est-ce que tu as vu que Coluche par rapport aux religions?
Oui, mais Coluche était. Religion, hein. J'en ai jamais trop parlé, mais c'était un athée ou un irreligieux ou un.
Je pense qu'il était athée. Je pense qu'il était athée.
Oui. Mais en même temps, il n'était pas insultant.
Non, non.
Il n'était pas insultant.
Oui, puis
non, mais quand même, il faisait de l'humour. Il faisait de l'humour concernant les religions.
Ah, oui.
N'importe quelle religion. Hein.
Bien sûr.
Mais tout le monde faisait de l'humour à l'époque. Tous les humoristes de l'époque faisaient de l'humour avec les religions. C'est aujourd'hui qu'on ne peut plus parler de religion. Dès que tu ouvres la bouche, on te saute à la gorge. Alors que
oui, parce que tout est politisé maintenant.
Non, ce n'est pas une question de politiser, c'est que les gens ils sont devenus d'une susceptibilité mais incroyable.
C'est quelqu'un qui a voulu se présenter aussi aux élections.
Et tout le monde s'accapare la religion. Le problème, il est là. Ce n'est pas on fiche la paix aux gens. C'est-à-dire, tu veux croire, tu crois, tu ne crois pas, ben, tu ne crois pas. Que chacun fasse ce qu'il veut, puis voilà quoi. Et puis on peut rire de tout. On peut rire de choses qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que si demain je fais de l'humour sur un membre de ta famille, Méziane, ou Khalid, ou un membre de ma famille, si on fait de l'humour sur un membre proche et mal placé, l'humour, là, oui, peut-être on peut s'offusquer. Mais faire de l'humour sur quelque chose qu'on ne peut pas palper, qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait rien et qui peut relever pour certains de l'irrationnel, je trouve ça d'une absurdité phénoménale de dire « Mais ne touche pas à mon bon Dieu, mais... » Mais c'est quoi ça, cette histoire? Ne parle pas de mon bon Dieu. Non, mais attends. C'est incroyable. D'abord, c'est pas ton bon Dieu. Si bon Dieu il y a, c'est bon Dieu de tout le monde. C'est Dieu de tous. Et que j'ai le droit de critiquer ma mère. C'est comme si ma sœur me disait, t'as pas le droit de critiquer ma mère. C'est ma mère aussi. Donc j'ai le droit. Donc Dieu appartient à tout le monde. Donc tout le monde a le droit de l'encenser, de le remonter, voilà, de l'aimer, de l'adorer, tout ce que vous voulez. Mais on a le droit aussi de le critiquer. Parce qu'il appartient à personne en même temps. C'est vrai ou pas, Khalid ?
Absolument, absolument. C'est ça l'expression de la liberté absolue, de pouvoir croire ou pas croire, et de laisser l'autre libre de croire, mais que l'autre aussi te laisse libre de ne pas croire.
Khalid, tu m'entends ?
Oui, je t'entends. Allô ? Très bien.
Oui,
vas-y, je t'entends très bien.
Moi, je voudrais quand même savoir, dans les pays, dans nos pays d'origine, hein, c'est-à-dire Maghreb, Moyen-Orient, Afrique, est-ce qu'on peut faire de l'humour sur la foi, sur la religion?
Ça va pas, non? Déjà apostasie, alors, quand tu...
Non, si, mais si tu vois, tu crois l'état pas, d'esprit, quand même, tu vois, il est différent.
Mais oui, exactement.
Ah oui,
alors, il y a une perception, effectivement, de la religion qui est différente, mais je pense, moi, je suis pas un islamologue, je suis pas un spécialiste, mais il y a eu beaucoup de grands hommes, on va dire des musulmans, qui ont voulu avoir l'esprit libre et de pouvoir se poser des questions et de rire parfois de certains aspects de la religion. Ils ont été sérieusement mis en place, quoi. Parce qu'il y a une tradition, en tous les cas, il y a des domaines où on ne va pas. C'est dommage parce que ça réduit la réflexion et ça désélargit l'esprit des gens.
C'est ça.
Et finalement, je vais prendre un exemple. Ibn Rushd, Averroès. Averroès, c'était une grande famille, attention, c'était un type extraordinaire, il était médecin, c'était un homme amoureux aussi, il faudrait qu'un jour je vous parle un peu de son amour de jeunesse, et son père le cadi, enfin c'est une grande famille, Ibn Rushd, à Cordoue, et alors, lui, il se dit que peut-être la religion c'est peut-être autre chose, peut-être que Dieu est plus grand que tout, et que la religion était tellement... difficile à comprendre, qu'il faut absolument passer par un biais. C'est comme si que je disais, tiens, pour me rendre à Marseille, si je prenais le train ou l'avion, ça irait plus vite qu'aller à pied, pour arriver à mon but. Et lui, il se dit, je pense que la philosophie peut nous aider à mieux comprendre. Et alors là, il se fait rentrer dedans. C'est pas de l'humour, c'est simplement une façon de comprendre le livre ou les livres ou les religions, et il propose la philosophie. Et il va se baser sur Aristote, qui est un immense philosophe grec. Et là, eh ben c'est sa déchéance. Il va être viré de Cordoue et il va finir sa vie à Marrakech. Voilà, enfin, c'était un homme extraordinaire. Sans faire d'humour, simplement ayant dit que peut-être que la philosophie serait un biais, le mec, il termine sa vie, enfin, comme, voilà, maltraité, etc.
Remarquez une chose, c'est que nous, dans la langue arabe, en général, la religion, le mot « rabbi, hamdoullah », c'est-à-dire « Dieu merci ». c'est-à-dire dans notre vocabulaire, Dieu est présent à chaque fois.
Oui, c'est vrai.
Oui, bien sûr. Oui, oui,
donc
bien
la pensée, sûr. Elle est pensée, elle, la pensée, elle, elle, elle découle de ça aussi.
Mais tu sais que même les personnes qui ne croient pas, ils te disent, par exemple, ouais, Inch'Allah, ou tout simplement.
Oui, mais même s'il n'est pas croyant,
ben oui, parce que c'est devenu.
Donc,
tu sais ce que c'est? C'est comme une sorte d'onomatopée dans le langage. C'est devenu comme. Ouais, c'est des expressions courantes. Même si on
est. Conditionne les esprits.
C'est ça.
Oui. Alors, effectivement, il faut de la pudeur, il faut du respect. Il ne faut pas blesser. Moi, je suis pour l'humour qui ne blesse pas les gens dans leur foi,
ah non,
dans leur
honneur. Bien sûr, mais d'accord.
Après, quand ça dépasse ça, ben, en France, par exemple, il y a une espèce de droit au blasphème. Alors pourquoi pas? Moi, je respecte la loi française, si elle l'accorde, et bien c'est bon, ben, on l'accepte.
Mais on l'accepte parce que c'est la loi.
La loi, elle est faite pour uniformiser. Elle uniformise, finalement. Et il faut la respecter, sinon on peut pas.
Khalid, quand on dit, Inch'Allah, Allah ibarak, Alhamdulillah, ce sont des choses qu'on dit en permanence dans notre langage.
Oui, mais ça fait partie aussi.
C'est toujours référence religieuse.
Mais Yann, ça fait partie justement de la culture en même temps, tu comprends? Donc,
non, mais c'est ça que je te dis. Oui. Mais ça conditionne l'esprit.
Non, pas forcément. C'est pas une question de conditionner l'esprit. Aussi, hein. C'est culturel.
Non, c'est pas neutre. Non, ce langage-là n'est pas neutre.
Bien entendu.
Il est orienté.
Il n'y a rien qui est neutre.
Bien sûr.
Il n'y a rien qui est neutre.
Il est orienté. Quand tu dis « Alhamdoulilah », donc, Inch'Allah, tu fais référence à Dieu, donc tu ne peux pas sortir de cette référence.
Mais ce n'est pas une question de sortir de référence, ça fait partie de la culture. C'est pas péjoratif et ce n'est pas négatif.
Non, mais je n'ai pas dit ça.
On le dit.
Je te dis que dans l'esprit, Dieu est présent
dans
tous les domaines, à tous les
moments. Oui, c'est des formules, quelque part, de respect vis-à-vis de la personne qui fait face à toi. C'est-à-dire, quand tu vois, par exemple, il y a une naissance ou un bébé, tu dis « Allah iberek ». Ça vient tout seul. C'est-à-dire, « Allah iberek », c'est-à-dire vraiment, c'est pas forcément connotation religieuse, ça veut dire tout simplement « Oh, cet enfant, tu vois, que cet enfant soit bon, on peut dire qu'il soit béni, mais quelque part, on est tellement subjugué par la beauté de cet enfant et puis on est content. On est content pour la famille, donc on dit l'Iberic. Mais c'est, il faut pas toujours voir le côté tout le temps négatif, religieux.
C'est
ou...
pas ça le problème. Tu m'entends pas?
Si, je t'entends, mais
bon, le problème il est pas à ce niveau-là.
Attends, ne quitte pas. On reprend juste après. On a une petite pause. À tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h. Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Et avant de reprendre avec Méziane pour son droit de réponse et puis Khalid aussi, on va accueillir Yacine qui nous appelle de Paris. Bonsoir Yacine.
Oui, allô, bonsoir.
Oui, bonsoir, bienvenue Yacine.
Merci beaucoup madame, merci. J'ai appelé juste pour vous dire, on a gagné, vive la France. Allez, au revoir.
Ah, il est content. Il est content. Ben oui, de toute façon, le Maroc aurait gagné, on aurait fait la même chose. Hein. On aurait dit, on a gagné, vive le Maroc, vive l'équipe du Maroc, les Lions de l'Atlas. Et là, c'est à la France, ben vive la France et vive les Bleus, voilà. Alors, Khalid et Méziane. Alors, Méziane, allô, oui Méziane.
Ben pour la France qui a gagné, on dit Alhamdoulilah.
Mais tu sais, Méziane, on comprend le sens de ta question. Ce que je veux dire, c'est que tous ces mots qui ont un esprit, une essence religieuse, dans le langage populaire, ils sont désacralisés. Ils ont perdu leur dimension religieuse. C'est devenu un langage parlé.
Puisque... Ah, mais il y a l'inconscient qui est là derrière.
Oui,
n'oublie
mais
pas.
On lui donne plus l'importance qu'il y a.
Quand un président de la République en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, quand il commence à parler, il dit Bismillah.
Oui, mais attendez, c'est les pays musulmans. On parle de la France, nous, hein. Moi, je parle
non,
de la
mais
France.
Quand même, le mot Bismillah, avant n'importe quel discours, il est de mise.
Alors en Algérie, la Bismillah, justement l'entrée en matière, je pense qu'elle a été retirée récemment des écoles. Il y a eu de la contestation, mais je pense qu'elle a été retirée par. Oui, je pense qu'il y a eu un débat là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, la Bismillah, donc l'entrée en matière, celle de nom de Dieu, etc., aurait été retirée officiellement avec la ministre Ben Rabarit, je crois.
Ah,
donc
ça,
une polémique où c'est en question. Je veux dire que ça a été désacralisé. J'entends des Français, moi, dire Inch'Allah, Bismillah, Allah,
oui,
etc.
Oui,
mais
vrai.
Le sens
rituel. Il a disparu complètement. On le dit presque par habitude, c'est devenu un lieu commun, un langage commun.
Ça devient neutre.
C'est neutre. Je pense que dans le dictionnaire, mais je dis ça très sérieusement, dans quelques années, on trouvera le mot Inch'Allah ou le mot Atexaha ou etc.
Oui.
Je pense que ça risque de rentrer dans...
Il y a un chanteur qui dit Inch'Allah.
Oui, mais il a... Non, ça c'est autre chose, parce qu'il y avait... Non, c'est pas Gérald Normand. Inch'Allah, c'était Adamo. C'était autre chose. Il y avait aussi un message à passer. Non, ça va rentrer dans... C'est rentré déjà dans le langage courant français, Inch'Allah. À la télévision, on voit régulièrement des personnalités artistiques ou autres, quand on leur pose une question, ah, vous ferez un spectacle, telle date et tout, il fait, ah oui, normalement, telle date et tout, Inch'Allah. Tout le monde dit Inch'Allah maintenant.
Et c'est marrant parce que culturellement, les Américains, si tu veux, ils ont un peu ce même état d'esprit, puisque le président, je crois, prête serment sur la Bible.
Ah, c'est pas
sur
pareil.
La Bible, absolument.
Oui, c'est pas pareil.
Et le dollar, je crois, est une référence religieuse.
Oui, mais c'est
pas trust in God, nous croyons en Dieu.
Voilà.
Sur le dollar. Donc, et l'Italie, il y a beaucoup de références, un peu comme chez nous, à la religion, dans leur langage parlé énormément.
Ah, voilà.
Il y a des
Donc,
pays.
Il y a une influence quand même, qu'on le veuille ou pas.
Oui, mais dans la Constitution, aux États-Unis, déjà, c'est pas comme en France, c'est pas la laïcité. Déjà, la religion, elle est très présente et elle est officiellement, en tous les cas, présente dans, je pense, si je ne me trompe pas, Khalid.
Bien sûr, prenez la constitution marocaine, par exemple, ça commence par l'islam, le pays, l'islam, le watan ou le malik, l'islam, et le roi. Donc, partout, l'islam est une référence, mais c'est pas un mal non plus. Ça dépend après comment on fonctionne avec
ça. Voilà, c'est ça.
Mais c'est pas un mal au départ.
Non, le problème, c'est pas que c'est bien ou que c'est mal, c'est pas ça. Mais si tu veux, dans l'inconscient, tu sais qu'on a le conscient et l'inconscient. Dans l'inconscient, la religion a une part.
Bien sûr.
À une part.
Depuis très longtemps.
C'est une référence. C'est une référence.
Bien sûr. C'est une référence qui est intéressante, qui est positive.
Non, mais je ne dis pas, c'est pas critique. Je parle d'une analyse, une analyse psychanalytique.
Oui, après, là, tu vas loin, là. Justement, il me permet de rebondir. Le sociologue qui va soutenir Coluche, c'est Deleuze, Gilles Deleuze.
Gilles Deleuze.
Et ensuite, il y a aussi un autre Français très connu qui a beaucoup parlé, qui s'est beaucoup engagé pour la guerre d'Algérie, un autre sociologue connu. Je voulais vous dire quelque chose tout à l'heure, les amis. C'est Vanessa, je pense, qui a évoqué ça. Tu parlais des gens. Ils sont tellement importants que finalement, ils deviennent une référence pour leur pays ou pour leur ville. Et alors, ces gens-là m'ont toujours subjugué. Je vais prendre un exemple. Que nous, au Maghreb, on ne sait pas encore faire. Ou je ne sais pas si ça a été fait, mais on ne sait pas le faire encore. En Belgique, il y a un peintre qui s'appelle Paul Rubens, qui est connu. Le peintre Rubens, c'est un géant de là. Qui a beaucoup côtoyé Marie de Médicis en France, etc. Il est né à Anvers. Aujourd'hui, si vous allez à Anvers, la ville, elle est bourrée de touristes. Eh bien, grâce à cet homme dont l'œuvre est absolument incroyable, c'était un peintre. Aujourd'hui, cet homme fait rentrer une manne financière dans la ville grâce au rayonnement qu'il a donné. Tous les gens viennent voir sa maison, qui est encore là, viennent voir ses peintures dans les différentes églises et cathédrales. Cet homme, grâce à son œuvre, a su faire rayonner la ville. Et dans beaucoup de villes, c'est comme ça. Alors, je vais prendre un exemple concret. Je vais prendre la Tunisie, puisque je parle de sociologie. Le père de la sociologie, C'est le fameux Tunisien qui a écrit énormément de choses, notamment l'histoire des Berbères, et qui est l'inventeur de la sociologie, qui a écrit une œuvre monumentale. Eh bien, c'est lui qui crée la sociologie à Tunis. J'ai appris il y a quelques années que sa maison existe encore dans le souk de Tunis. Eh bien, sa maison est quelconque. C'est devenu un petit musée, personne n'y va. Cet homme a fait un rayonnement mondial sur la... Il crée la sociologie.
Oui.
C'est lui le père de la sociologie. Il existe au 15e siècle.
Comment il s'appelle?
Alors justement, c'est toujours comme ça.
Ibn Khaldoun.
C'est Ibn Khaldoun, bravo. Ibn Khaldoun a fait un rayonnement mondial. Il est étudié dans les universités du monde entier. Et aujourd'hui, la Tunisie n'arrive pas à le vendre.
Mais toi qui es belge, est-ce que tu as vu la maison d'Hergé?
Bah oui, bien sûr.
Du coq à l'âne, tu sais, j'aime bien. Ah, mais, attends.
C'est pas belge.
Attends, je l'ai fait taire là, tu vois, je l'ai mis vraiment en sourdine. Tu sais, déjà t'es pas belge, mais en plus il est tout dans les caricatures. À partir du moment où t'es à la frontière belge, t'es belge. Et puis j'aime bien. Alors, tu parlais de philosophes, tu parlais de Ibn Khaldoun, tu as parlé de Deleuze, etc. Puis d'un seul coup, on tombe, tu sais, on était sur notre petit nuage. Et d'un seul coup, il te dit.
Le flamand.
Tu connais, toi qui es belle, tu connais Hergé, Tataï Milou?
Oui, c'est sûr.
Vanessa, tu devrais appeler ton chien Milou.
On dit, ah non, mais attends, mais tu m'as regardé ou quoi? Moi, mes chiens, tu sais comment ils s'appellent?
Et toi, tu sais ça?
Mon chien, il s'appelle Platon. L'autre, il s'appelle Ramsès.
Bravo.
Ah ben oui. L'autre, il s'appelle Ramsès.
J'avais une copine, c'était son chat qui s'appelait Platon.
Ah ben tu vois. L'autre, il s'appelle Ramsès.
Oui, c'est joli, Platon.
J'ai eu, qui est décédé, paix à son âme, Horus.
Horus.
Happy, mais API, hein, toujours, hein, le dieu égyptien, etc., avec la tête de faucon.
Des noms prestigieux, là.
Ouh, voilà. Là. Ah oui. Non, mais j'ai mes chiens.
T'es bien entouré, là.
Ah, mais mes chiens, moi, c'est ça. Alors, il me dit Milou. Alors, t'imagines. Pourquoi pas Toby, tout, je sais pas quoi.
Toby Nathan.
En Algérie, tous les chiens que je rencontre, les gens qui ont des chiens, tu sais, pour garder. Parce que, bon, maintenant, peut-être, il y a la culture. Mais avant, voilà, ils gardent. Parce qu'ils aiment pas trop les chiens, les gens. Faut dire ce qu'il en est. Mais tous ceux qui ont des chiens, regarde, tous, ils appellent leur chien par le même nom. Bobby. Tous, ils s'appellent Bobby.
Médor.
Bobby, Max, ou alors Max. Bobby, Max.
Il y a Médor aussi.
Non, Médor, c'est encore autre chose.
Il y a Sultan.
Oh là là, Méziane.
Méziane, tu parlais d'Ibn Khaldoun. Juste en face de l'ambassade de France, dans l'avenue de Bourguiba à Tunis, il y a une immense statue d'Ibn Khaldoun. C'est la référence qui est là.
Ah oui.
Mais il n'y a rien qui est fait. Il n'y a pas de tourisme autour de cet homme. Parce que la Tunisie a d'autres valeurs à mettre en place. Mais je veux dire, on ne sait pas mettre en valeur un homme aussi prestigieux que lui. Je pourrais en parler d'autres. Il y en a aussi en Algérie, il y en a en Maroc.
C'est l'école qui doit le faire. Tu sais, c'est les élèves à l'école. C'est les enseignants.
Fou, c'est pas fou.
Alors, mais tu sais qui Ben Khaldoun, il a vécu en Algérie, à Béjaïa.
Bien sûr. C'est là qu'il a écrit son œuvre, justement. Je voulais y revenir à Frenda, je crois. Une ville qui s'appelle Frenda.
Frenda, c'est
là
qu'il a dû se retirer
pour écrire son œuvre.
C'est à côté de Thierrette.
Frenda,
exactement. Ouais, à côté de Thierrette.
Alors, juste pour finir avec eux, je dis que j'allais pas trop monopoliser, mais là, j'ai vraiment, je m'excuse auprès de tous si j'ai été long. Sur Coluche, parce que c'est un homme de citation. Il a fait une citation que vous connaissez tous, mais qui est admirable. Il a dit, je suis capable du meilleur comme du pire, mais c'est dans le pire que je suis le meilleur.
Elle est pas mal.
Ça, c'est la définition de l'homme, hein, en général. L'homme.
Ah, c'est formidable.
Ah oui, avec un grand H.
Je suis capable du meilleur comme du pire, mais c'est dans le pire que je suis le meilleur. Ouais. Quelle modestie et quel génie en même temps. Quoi.
Complètement.
Il a tout dit dans cette phrase.
Ouais.
Et alors, lorsqu'il est abandonné par tout le monde, les médias le jettent. Il arrête, effectivement, il jette l'éponge pour l'élection présidentielle. En fait, il n'a pas les signatures. Tout est fait. Tous les partis interdisent aux élus de lui donner sa signature. Entre deux, son ami Gorlin est assassiné. Son représentant, quelque part, auprès des médias. Et on croit que c'est un coup de la politique pour l'intimider. Puis on s'aperçoit que c'est un crime passionnel, en fait. Gorlin est assassiné par son compagnon. Mais tout ça crée de la peur et de la panique dans le clan Coluche. Et il arrête.
Il est y avait l'histoire avec Alain Delon, avec le garde du corps d'Alain Delon.
Ça, c'est autre chose.
C'est autre chose.
Non, on va repartir de l'époque Pompidou, là, c'est long.
Ah ouais, non, mais ça, c'est...
Oui.
Et alors, lorsqu'il se retire, il est abandonné. Je dis bien que tout le monde, de tous ceux qui se gargarisent aujourd'hui, mon ami, je l'ai reçu, c'est pas vrai. Ils l'ont tous. Il n'y a que Charlie Hebdo qui soutient. Il se retire et il leur dira, je vais revenir. Et vous allez tous venir manger dans ma main.
Mmh.
Et c'est là où il crée les Restos du Cœur, évidemment. Tout le monde arrive vers lui. On lui ouvre tous les médias. Ça devient le dieu Coluche, le prodigieux Coluche, etc. Et il aura cette deuxième phrase admirable. Il dira ceci. Lorsque je me suis lancé en politique, je leur ai fait peur. Quand j'ai créé les Restos du Cœur, je leur ai fait honte.
Mmh.
Ah,
tout
bravo.
Est dit. Tout est
bravo,
dit.
Bravo. Ah, c'est un gros bonhomme. Hein.
C'est formidable.
C'est un grand bonhomme, ah oui. Mais je sais
j'ai oublié à ta demande.
Qu'est-ce qu'il a fait comme étude, lui?
Rien.
C'est incroyable, l'esprit, l'intelligence, l'école de la vie.
C'est un observateur.
Oui, c'est ça.
Ah, oui.
Après, je pense qu'il est comme nous, comme tout le monde.
C'est une référence dans la réflexion.
comme disait Vanessa, au-delà de toute appartenance ethnique, religieuse, c'était un être humain, tout simplement, et qui a donné
la vie.
Après, sa mort,
sympathique.
C'est tout à fait autre chose. C'est un sujet, on va dire, tabou.
Il a une vraie bonhomie, une vraie bonhomie.
Mais c'est personne qui...
Ouais, vrai bonhomme.
C'est très généreux.
Et alors, tu sais, Vanessa, je vais faire une petite confession. Tu sais comment je découvre la maison de Coluche rue Gazan et que je m'intéresse donc à Coluche à partir de ça? Eh bien, c'est quand j'étais à Beurre FM.
Oui.
Une petite confession sans méchanceté. Il y a une auditrice qui gagne, qui avait un nom très très drôle.
Ouais.
Et je l'appelais Rita Hayworth, comme l'actrice, parce qu'elle avait un nom arabe qui ressemblait à ça.
Ouais.
Et elle me dit, j'ai gagné un CD, c'est pas gentil, il ne m'a pas été parvenu.
Ouais.
Ah, je dis, écoutez, donc je vais faire monter deux, trois fois. Apparemment, le CD ne serait pas arrivé.
Ouais.
Et alors, je me décide. Je dis, écoutez, je vais aller vous... écoutez, je vais le mettre dans votre boîte aux lettres. Puisque j'étais place d'Italie, à l'époque, j'habitais pas trop loin. Du côté de la place d'Italie, et donc le verre me dit, j'habite rue Gazan, en face du parc Montsouris. Rue Gazan, ça me dit quelque chose, rue Gazan. Et je me rends au 14 rue Gazan, je vous donne l'adresse parce que je pense qu'elle n'y est plus. Et je me dis, mais qui habitait là? Et en fait, Coluche était déjà mort quand j'y vais. Et en fait, elle habitait finalement à côté de Coluche. Et elle m'a intéressé, cette fille ou cette femme, parce que je me suis dit, mais ça se trouve, elle a habité là, quand Coluche était là, et il aurait beaucoup à dire.
C'est
comme ça que je découvre Coluche, et que cette femme, effectivement, je mets le CD, elle ne répondra jamais plus, même à la radio, pas d'appel, pas de remerciement. Et je savais qu'elle voyageait beaucoup déjà à l'époque, entre Dubaï et Paris, elle me disait qu'elle était, elle achetait des vêtements là-bas, qu'elle revendait, etc. Et finalement, je m'intéresse à Coluche, et j'essayais, à travers cette maison qui était vide, eh bien, j'ai commencé à chercher, un peu comme tout le monde, dans des bouquins, dans des interviews, dans des sketchs, quel bonhomme c'était, et je me suis aperçu, tout ce que vous savez aujourd'hui, que c'était un type exceptionnel,
Exceptionnel.
Et que finalement,
d'une intelligence...
il est revenu habiter dans le 14e, là, parce que c'est là, finalement, où tout a commencé.
Mais est-ce qu'il a travaillé avant d'être artiste?
Il a fait une dizaine de métiers, il a fait barman, il a fait livreur, il a fait une dizaine de métiers différents,
donc c'est un gars qui avait pas un métier particulier.
Non. C'était un type qui aurait pu mal tourner, puisqu'il a eu, on l'a accusé à l'époque pour le salir lorsqu'il lance son politique. Il y a des journalistes qui vont aller fouiller, ils vont voir que quand il avait 17 ans, il a volé une mobilette, qu'il a commis un larcin là. On va essayer de le salir et finalement.
Ouais, moi j'ai entendu dire qu'il était un peu loubard.
Ben oui, mais c'était à l'époque des années 60, c'était un blouson.
C'est la jeunesse, c'est normal.
Bien sûr.
C'est la jeunesse populaire, de prolo.
Voilà, la française de l'époque, des années 60.
Pareil, qu'il allait souvent à Saint-Ouen aux puces, au marché aux puces, il traînait souvent là-bas,
C'est comme ça qu'il connaît Lanvin, parce que Gérard Lanvin vend des fringues des stocks américains.
C'est ça, voilà ce que j'allais dire.
Et Gérard Lanvin avait une vieille Harley Davidson, et alors Coluche aussi arrive avec une vieille Harley.
Et là,
ils font connaissance. Et c'est à partir du marché de Saint-Ouen.
C'est la même histoire que j'ai entendue.
Voilà, et c'est parti.
La vie est faite de rencontres.
Un peu comme Depardieu qui commence par être un loubard. Depardieu, c'est un type qui a adoré les immigrés algériens, parce qu'en fait, quand il grandit, eh bien, il vit là-bas, du côté de chez lui, à Castelrenard, Château-Renard, et il y avait beaucoup d'Algériens qui étaient là, et puis alors, dans les bistrons, je foutais d'eux. Et il dit, j'avais 14 ans, mais j'étais taillé comme un gorille déjà, j'étais déjà très costaud. J'en ai frappé des gens qui riaient, justement, des Algériens qui s'expriment mal, etc.
Et tu sais, Khalid, excuse-moi de te couper, tu sais, je l'ai entendu il y a à peu près 2-3 ans, qui disait qu'il se baladait en V-Max ou un truc comme ça, une moto, dans les rues d'Alger, comme il voulait. Il connaît Alger comme sa poche.
Alors, j'ai su récemment qu'il va souvent au restaurant qui est apparemment mondialement connu, sauf de moi, au-dessus de Tipaza, le restaurant Le Sauveur, spécialité...
Sauveur.
Il paraît que tous les mois...
Alger...
C'est à la Madrague.
Voilà, exactement, c'est ça.
Je ne connais pas, j'ai appris ça récemment. Il paraît que Depardieu, tous les mois, il mange là-bas.
Et tu sais que je leur dois 3000 dinars à la Madrague.
Il avait des vignobles, n'est-ce pas?
Que je n'ai jamais payé.
Dis donc, c'est du propre. Alors, donc, il avait des vignobles vers Mascara, je crois.
Exactement.
Hein, c'est ça.
On m'a dit qu'il portait encore toujours, et c'est
Saint-Augustin. D'ailleurs, il appelait son vin. On peut faire de la pub parce que c'est pas en France. Il est pas vendu en France.
Mais il se baladait dans les rues d'Alger en moto. Là-bas, il n'était pas dérangé par personne. Ouais.
Mais Yann, on arrive à la fin. Je suis désolée, Khalid aussi. Je suis très mal élevée, mais je suis obligée de vous couper parce qu'on arrive à la fin. Sinon, Anthony va pas être content. Je vous embrasse fort.
Si on rend l'antenne en retard, c'est moi qui prends.
Je vous embrasse fort et je vous donne rendez-vous demain. Khalid, merci. Merci un milliard de fois, vraiment. Méziane, merci à toi aussi. Je vous aime. Revenez demain. Voilà, merci aux autres qui sont en attente. Merci Anthony.
Merci à toi Vanessa. Merci pour cette soirée de folie avec, avec le foot.
Exactement. Alors là, sur les Champs-Élysées, tout à l'heure, il y avait, des feux d'artifice.
Si, ça continue.
Voilà, il y a des feux d'artifice, il y a la fête, tout se passe bien. Eh bien, voilà, on est content pour les Bleus, bien sûr. On est très content. On aurait aussi été très heureux pour les Lions de l'Atlas. Mais c'est, voilà, vous avez gagné les Lions. Vous êtes battus comme des Lions et la prochaine coupe, ce sera pour vous puisque vous avez été presque au bout, là. Bravo.
Ils ont gagné nos cœurs.
Voilà, et bravo. C'est vrai que là, et c'est un très, 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 c'était un très beau match. Moi, je le regardais en direct. Vraiment. Ah, ils sont bien, bien, bien défendus, en tout cas. Voilà. Merci, Anthony. À demain.
Merci. Bonne nuit, tout le monde.
Allez, belle et douce nuit à vous, chers amis. Faites de beaux rêves. On vous laisse avec Rai Anthologie, avec un très beau programme toute la nuit, des rediffs.
Riches et variés.
Voilà, exactement. Beaucoup de rediffs très intéressantes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Notre premier rendez-vous, eh bien, sera à 11h, de 11h à midi, pour vos petites annonces, 11h midi, d'accord? Voilà, à demain, je vous aime, bye.
Retrouvez Confidence tous les jours de 21h à 23h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.